Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Les mecs que je veux ken.
Mes petits louveteaux, désolé, cet épisode sort avec quelques heures de retard. Normalement, je sors les épisodes le lundi à minuit une. Et là, il est déjà 14h, j'ai pris du retard. Mais en fait, pour tout vous avouer, je suis malade comme un chien depuis... Oh là là, bah depuis plus d'une semaine. Hein. Ça a commencé par une toux et puis ensuite, c'est devenu une crève. Et en fait, voilà, comme vous le savez peut-être, mais j'ai des soucis d'oreilles internes. C'est-à-dire que mes oreilles se bouchent. Au départ, c'était de l'hydrops, des cristaux. Et en fait, les sinus bouchent mes oreilles, ça se transforme en sifflement, en acouphène. Et puis, ça me donne des migraines, des vomissements, des nausées. Donc, vendredi matin dernier, je vomissais à la gare. Puis, je suis partie jouer à Genève. Et j'étais dans un état pas terrible. Mais les deux représentations se sont bien passées. Merci aux Genevois, aux Carougeois qui étaient là. C'était vraiment, vraiment très, très chouette de jouer devant vous. Alors que j'étais un peu au bout de ma life. J'ai fait évidemment des tests Covid le jeudi et le samedi soir. Et non, je ne suis pas positive au Covid. Mais voilà, peut-être certainement aussi un petit peu... En burn-out, quoi, n'arrivant pas à tout faire. Voilà, il y a des choses aussi que je ne vous ai pas dit pour des raisons de confidentialité, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça fait depuis le mois de mars à peu près que je suis scénariste sur un projet de série, une pré-bible. Je ne peux pas vous dire évidemment de quoi il s'agit parce que voilà, la créatrice veut garder le sujet, enfin tout est confidentiel, mais ça me prenait quand même pas mal de temps et c'était une autre partie de mon cerveau qu'il fallait développer. C'était hyper enrichissant, très intéressant, ça continue encore en ce moment. Mais ajouter à ça, en fait, le travail, je vais être présentatrice et donc, bien sûr, je pourrais aussi ça vous l'annoncer, je crois, assez prochainement, hein, vraiment. Mais donc, le travail de préparation de ces émissions est assez lourd, en fait, parce qu'il faut aussi écrire, travailler sur l'intro, les lancements, les transitions, comprendre les différentes parties, lire les témoignages des témoins qui vont être là. Enfin, en fait, tout ça, c'est du travail. Puis, évidemment, faire évoluer le texte. Et là, ce jeudi 24, j'ai le FUP, le Festival d'humour à Paris, à Bobino, où je dois jouer un extrait du spectacle avec des nouveautés. Et je suis dans une angoisse existe énorme. Mais ça va aller. C'est juste que, comme je vous l'ai déjà répété dans le podcast, moi, je préfère largement jouer mon spectacle que faire des plateaux. Et là, un énorme plateau avec des géants, des mecs, des meufs trop forts du stand-up devant 900 personnes, ça me stresse. Mais j'ai hâte que en fait, ce soit passé et qu'ensuite, je puisse être à Lille ce vendredi voilà, et jouer mon spectacle, ce que je préfère, en fait, jouer le spectacle en entier. Et puis aussi, j'ai au dernier moment, on me confie aussi des écritures de trucs cool. Là, l'édito dans un magazine qui sortira cet été, un autre édito, peut-être vous l'avez vu passer, celui pour Madame Figaro. Donc ça c'était chouette, mais tout ça s'accumule et parfois je ne suis pas à la hauteur et je tombe malade. Et en plus, j'ai des soucis d'électroménager qui viennent s'ajouter. Mon frigo fait un vrombissement terrible. Je suis rentrée dimanche, c'était la canicule. Mon train avait 1h30 de retard et j'avais des fourmis partout dans mon appart. Donc tout ça, c'est un petit peu complicado. Mais je remercie Julia Pietri, Gang du Clito, de m'avoir envoyé son livre sur la masturbation et ses bonbons clito que j'ai donné en goodies à mes invités. Et j'en viens à l'invité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Margot et figurez-vous que c'est la toute première auditrice anonyme que j'ai rencontrée le 2 mai. C'est la première que j'ai enregistrée de cette édition et c'était avant les législatives. Oh, c'était un moment extraordinaire partagé avec Margot. Vous verrez, on est toutes les deux peut-être tâtonnantes, un peu timides. Elle est passionnante, elle se confie, vous verrez, au gré de l'épisode, qui prend des tournures à la fois intimes et touchantes. Voilà, c'est une parole assez pure, je sais pas, très jolie. J'espère que ça vous détendra. C'est une conversation vraiment... finalement, moi, je trouve assez zen. J'ai été assez tranquillisée de la réécouter. Et voilà, je vous souhaite une très belle écoute.
T'as écouté quel épisode ce matin ?
Lola Wesh. C'était celui que j'avais pas écouté dans les derniers.
Ok.
C'était assez chouette.
Ça t'a plu ?
Ouais. Je les essaye de les écouter les jours même en général, mais là, ouais. Je n'avais pas eu le temps celui-là.
Oh, waouh ! Bon alors, écoute, je t'ai écrit donc un petit poème qui est plus une présentation. Voilà. Je ne connais pas encore Margot, je vais la rencontrer aujourd'hui à l'occasion de cette édition spéciale du podcast avec des invités anonymes, ce que je sais. Margot est donc une auditrice des Mecs que je ken, elle a lu mon livre et est même venue au spectacle. Elle en sait donc beaucoup plus sur moi que moi sur elle, mais voici les informations qu'elle a bien voulu me confier pour que je puisse la présenter. Margot a 21 ans. Elle est actuellement en stage dans une maison d'édition pour son année de césure et sinon elle est dans une école de commerce à Audencia, à Nantes. Manon est née à Montpellier, elle y a vécu toute sa vie avant de partir pour ses études. Manon est en couple depuis bientôt un an avec un jeune homme qu'elle a rencontré à Audencia et par chance, ils font tous les deux leur stage à Paris. Son livre préféré est Les cerfs-volants de Kaboul, The Kite Runner, premier roman de l'américain d'origine afghane Khaled Hosseini. Margot se définit comme bavarde, elle adore les jeux de société, les langues étrangères et s'acheter des fleurs. Margot, déjà merci et peux-tu me raconter ce qui t'a menée jusqu'à moi aujourd'hui ?
Alors moi je t'ai découverte sur YouTube je pense en découvrant tes sketchs de stand-up.
Ok.
Et du coup après j'ai commencé à écouter ton podcast parce que j'aime beaucoup écouter des podcasts. Du coup c'est ce qui m'a amené ensuite à acheter ton livre, le lire en une soirée super fan et ensuite d'aller voir ton spectacle. Donc depuis j'écoute donc les mecs que je veux ken régulièrement mais aussi Hotline. Et du coup c'est chouette parce que c'est vraiment deux univers vraiment hyper différents dans le cadre des podcasts et tout ça. Et donc j'aime beaucoup ce que tu fais et je trouve ça assez intéressant. Quand je découvre quelqu'un que j'aime bien, en général, j'aime bien voir un peu tout ce qu'il y a. Et là, tout me plaît, donc c'est assez chouette.
Oh, waouh !
Et donc voilà.
Ah, c'est dingue, c'est marrant, c'est vraiment... donc c'est nouveau pour moi d'aller vraiment là, en direct à la rencontre des auditeurs et auditrices. Il y en avait certains qui viennent me voir quand même après le spectacle avec lesquels je discute et parfois un peu sur Instagram. Mais ça, c'est étonnant que la toute première fois, tu sois tombée sur moi sur YouTube parce que sur ma chaîne, il n'y a pas beaucoup. C'était sur genre une interaction de spectacle que j'avais mise une vidéo
Non, je crois que c'est ton sketch sur le câlin qui doit être sur...
Ah ouais, ok.
Peut-être sur une des...
Des plateformes. France TV Slash ou un truc comme
voilà,
ça.
C'était ça sur France TV Slash.
Ah, c'était ça.
Ouais.
Ok.
Donc voilà.
En plus, moi, je me déteste dans cette captation.
Ah, moi, j'aime bien.
Oh, bah écoute, ça me rassure, ça me fait du bien. Je me trouve. J'avais trouvé que dans cette captation, on n'entendait pas bien les rires.
Ah ouais, mais c'est pas très dérangeant.
C'est pas dérangeant.
Non. Et du coup, j'étais venue te voir à la fin du spectacle pour signer mon livre que j'avais déjà lu. Et donc, j'étais assez contente.
Ah, trop bien. Et donc, tu es passé des mecs que je veux ken à Hotline, parce que parfois, il y a des auditeurs et auditrices d'Hotline qui découvrent les mecs que je veux ken via Hotline.
Ah non, moi, j'ai fait dans l'autre sens.
Dans l'autre sens, ouais. Ok. Ouais, ça n'a rien à voir, c'est une autre ambiance.
Ouais, mais j'écoute plein de podcasts qui n'ont rien à voir, donc c'est chouette. Ouais. Quand j'en ai écouté plein d'un, je change, il y a les nouveautés, tout ça.
T'écoutes quoi comme podcast ?
J'écoute beaucoup de podcasts, un peu récap de séries, des gens qui font des rewatch d'anciennes séries. Par exemple, il y a les actrices des Frères Scott qui font ça.
Ok.
Donc j'écoute ça, ou sinon des podcasts qui parlent de musique, qui parlent de nouvelles chansons, et parfois, et donc voilà, les mecs que je veux ken, Hotline, ce genre de choses, ouais. Un peu de tout, un peu éclectique. Parfois des podcasts d'histoire, mais donc du coup, là, rien à voir.
Ah ouais, des podcasts d'histoire aussi, genre c'est long de latte, c'est ça, ou des trucs comme
ou
ça.
Sinon,
ouais.
Le cours de l'histoire, donc parfois c'est intéressant, ça parle de trucs hyper différents. Donc quand je suis trop longtemps seule au bureau, ça m'occupe, c'est sympa, quoi.
Et donc là, tu es dans un stage dans une maison d'édition, c'est un boulot dans lequel tu aimerais travailler peut-être
après ? Ouais, j'aimerais beaucoup, j'aimerais bien être éditrice. Et donc là, je fais c'est mon deuxième stage dans l'édition, là je cherche celui d'après, donc c'est un peu, c'est tout ça. Mais c'est chouette de découvrir un peu comment ça fonctionne, parce qu'en plus moi je suis en stage dans un groupe où il y en a plein. Et donc je vois plusieurs maisons d'édition, plusieurs livres différents, plusieurs métiers, c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne tout ça.
C'est quelle maison d'édition
C'est le groupe Editis.
D'accord.
C'est un gros groupe où il y a une cinquantaine de maisons. Et donc, je travaille par exemple chez Seguer, c'est une maison d'édition de poésie, pour Robert Laffont, pour les Presses de la Cité, pour plein de groupes.
D'accord.
Pour Toulon, tout ça. Donc, c'est assez okay. divers.
Oui, d'accord.
Donc, c'est vraiment un peu de tout. Et donc, moi, je travaille sur la partie e-books.
Ok, le livre en ligne.
Ouais, c'est ça.
Ça me fait penser que demain, je vois mon éditeur, il faut que je lui dise, apparemment, mon livre a été téléchargé illégalement.
Ah ouais?
Ouais. C'est quelqu'un sur Instagram qui m'a envoyé ça. Apparemment, il est disponible de façon illégale sur
ah ouais
un site de contrebande. Ouais.
C'est étonnant.
Bah, tu sais, apparemment, il y a des films que tu peux télécharger illégalement, mais en fait, il y a des livres aussi.
Ok.
Ouais. Donc, faut voir avec Adopi tout ça, je sais pas. Ouais,
moi, c'est marrant parce que dans mon travail, en gros, on travaille sur les promos des e-books. Et donc, on okay. fait sur les différentes catégories. Donc, je dois aller sur les sites des revendeurs voir. Et souvent, je le vois, les mecs que je veux ken en promo ou mis en avant par le revendeur, surtout au mois de mars, pendant le mois des femmes et tout. Il était souvent mis en avant.
Ok.
C'est rigolo de voir tout ça.
Mais e-books, c'est pas forcément... Est-ce que tu gères aussi la partie Amazon, Fnac
On leur fait des listes en fait, par mois thématiques de promos. Et okay. eux, après, ils mettent en avant certaines maisons d'édition, certains titres, tout ça.
D'accord.
Donc, c'est pas nous directement, c'est plutôt d'autres équipes qui travaillent avec eux. Donc, nous, on regarde un peu comment les livres qu'on a choisis sont mis en avant tel mois, tel jour.
Ah.
Donc, c'est un peu toute la chaîne.
La chaîne ouais. de vente du livre. Putain, moi, les gens sont vénères avec moi sur Babelio.
Ah bon?
Ah ouais, je me suis fait lyncher. Quoi? Bah, je sais pas si je l'ai raconté dans le podcast, mais déjà, j'ai eu une hateuse.
Sur Babelio?
Alors non, d'abord, ça a commencé sur Instagram, en fait.
Ok.
C'est une nana qui a fait une critique horrible du livre en me disant que j'étais grossophobe, raciste et classiste.
Oh, ça fait beaucoup. C'est tout d'un coup.
Et j'ai vu ça sur Insta, je me suis dit, bon, bah, en même temps, liberté d'expression, elle a le droit de, tu vois, mais elle m'avait bien. Et puis ensuite, je sais plus, je regardais qui regardait mes stories et je voyais qu'elle me stalkait, elle regardait. Et je me disais, mais attends, comment une nana qui a détesté, qui a fait pourquoi elle me suit, quoi. Donc je l'ai bloquée. Et ensuite, j'ai découvert qu'elle avait copié-collé son pavé d'horreur qu'elle a mis sur Insta sur Amazon, la Fnac et Babelio.
C'est méchant de faire ça.
C'est méchant de ouf. Et en plus, à chaque fois, en mettant une photo, ce qui fait que son avis arrive en le premier. Parce que les avis avec photos sont les mieux référencés, ouais. Et alors, j'ai demandé à des potes de signaler son commentaire et tout, parce que c'était le premier truc sur lequel tu tombais.
Ouais.
Alors, grâce à ça, il a disparu sur la Fnac, je crois. Mais il est toujours sur Amazon. Et il est toujours sur Babelio, et comme Babelio, il y en a peu, et le pire, et par contre, il y a d'autres gens qui l'ont rejoint en mode « Ouais, t'as vraiment raison, elle est vraiment grossophobe, raciste et classique. » Ouais, et donc, c'est un peu violent, mais donc toi, ton métier, c'est pas... Par exemple, tu pourrais pas, genre, aller mettre une critique gentille de mon livre et lui dire « Tu as faux, tu as tort. »
Bah, je peux le faire sans mon métier, mais c'est pas mon
oui,
métier.
Oui, non, c'est
ouais.
pas ça.
Non,
le...
c'est ouais. pas trop ça. Nous, on fait plutôt... on s'occupe de la promo, donc des différents titres des maisons, et aussi au moment des lancements des livres, on fait des promos sur un compte Insta, on dit un peu les prix de lancement, les nouveautés du moment, les bonnes idées, les bonnes thématiques, tout ça.
Ouais.
Et du coup, c'est chouette parce que comme on travaille sur 14 maisons, bah, ça fait un catalogue énorme, donc je découvre plein de livres.
Ouais, t'arrêtes pas de bouquiner.
C'est chouette. Et après, j'ai des moments de creux et du coup, je regarde des séries. Donc, c'est comme ça. Voilà.
Et toi, t'as pas envie d'écrire un jour?
Je sais pas parce que je sais pas trop ce que j'aurais à écrire. C'est pour ça que j'aimerais bien être éditrice parce que comme j'aime bien écrire, j'écris, je parle bien français, anglais, tout ça. Donc je me dis être éditrice, ce serait vraiment l'aspect que j'aimerais bien. Donc c'est pour ça là, je cherche pour mon deuxième stage de découvrir l'aspect que je connais pas parce que pour moi c'est un peu une idée que je me fais, mais je sais pas exactement comment ça travaille un éditeur. Quoi.
Tu veux dire que ça pourrait t'intéresser de traduire, de découvrir des livres étrangers, de les faire traduire en français ou des trucs comme ça?
Par exemple, ou alors de travailler avec des auteurs et de travailler un livre du début à la fin. Après, en stage, au début, ça serait plutôt d'assister la personne, mais donc découvrir tout ça. Je pense que ce serait quelque chose qui me plairait pas mal. Ouais. Toi, t'as toujours su que tu voulais écrire?
Bah, écoute... Moi, c'était... J'écrivais mon journal intime. Donc, tu vois, c'était vraiment quand j'étais petite. Mais je pense qu'au début, quand j'ai écrit mon journal intime, j'avais quand même un peu... Pas l'espoir que quelqu'un le lise un jour, puisque vraiment, je l'écrivais pour moi et j'écrivais vraiment à chaque fois, genre, top secret. Mais j'avais écrit « Si jamais un jour vous retrouvez ce livre, il faudra le publier de façon posthume, car Rosa sera morte. » Enfin, tu vois, donc, il y avait quand même un truc un peu de mise en scène, de mise en avant, un truc un peu théâtral. Je pense qu'au fond, je me laissais la porte.
en me disant peut-être est-ce que ça intéresserait mon journal intime. Puis j'ai continué à écrire beaucoup journal intime et ensuite des carnets de voyage et ensuite c'est bête mais aussi beaucoup de cartes postales. Je me souviens que quand j'étais en 16e, en 5e, j'envoyais des cartes postales à tout le monde, mais dans ma classe, mais c'était bizarre. Les gens recevaient une carte postale, ils disaient mais je la connais pas. Et je demandais les adresses et j'écrivais à tout le monde quoi. J'avais vraiment passion carte postale, passion papier à lettres. Et après, passion quand même, cours de français, rédaction, sujet d'invention. Mais comme je voulais être comédienne, l'écriture, c'était ma grand-mère qui m'avait dit que je serais écrivaine. Et j'étais en mode, waouh. Et puis bon, peut-être que c'était peut-être quelque chose qui m'aurait tentée, mais j'avais une prof de français qui m'avait un peu... qui m'avait dit que je deviendrais prof de français.
Ah oui.
Et donc en fait, moi je me dis... Ouais. Et donc résultat, je me suis dit, oh, je vais choisir le truc fun, je vais choisir actrice. Enfin, tu vois.
Ça donne plus envie, ouais, c'est
bah,
sûr.
Bah ouais, je me suis dit, tiens, voilà, ça sera ce milieu-là, ça sera le théâtre, le cinéma. Écrivaine, j'avais peur que ce soit juste prof de français au final, que ça se termine comme ça, tu vois. Et c'était un peu ma hantise. Ça aurait été vraiment donner raison trop à ce que j'étais comme personne au collège, quoi. Mais oui, je pense qu'à la base, c'était plus ma nature, c'était plus de... Enfin, quoi que non, j'adorais le théâtre quand même et j'étais déjà un peu passionnée par ça. Mais en fait, et ensuite quand même de lire beaucoup de textes de théâtre. Et après, au lycée, j'ai écrit un recueil de poèmes. Très nul, je pense vraiment hyper gothique, mais mauvais quoi, tu vois, lourd, pesant. Et pendant longtemps, je trouvais que j'avais un style quand même qui était pas très léger quoi. Je faisais des longues phrases un peu lourdes et tu vois, justement, en écrivant les mecs que je veux ken, je voulais que ce soit le plus léger et possible en fait. Et c'est bizarre parce que quand les gens me disent oh bah je l'ai lu d'une traite, facile à lire, j'aurais pu l'écrire, à la fois je sais que c'est un compliment, mais c'est dit, les gens se rendent pas compte que en fait pour moi c'était une victoire, tu vois, d'écrire un truc qui soit pas
après ça se lit vite, mais c'est pas pour autant que ça, j'aurais pu l'écrire, c'est pas forcément pareil. C'est surtout que ça, c'est assez captivant en fait, le livre, ça a envie de savoir tout quoi.
Ah bah chouette. Cool. Ouais, moi j'avais vraiment envie, finalement, un peu. Je crois qu'au départ, c'était un peu de faire un roman. Et puis je me suis rendu compte que, avec mon éditeur, que finalement, il y avait une évidence du jeu, quoi, de la première personne. Et que c'était. En fait, je crois que le chemin que j'ai fait pour arriver jusqu'à l'écriture, c'était de me détacher un peu de l'idée que j'avais de la littérature et du métier d'écrivaine, tu vois. Okay. Et je pense quand même qu'au collège, quand j'ai lu tous les Balzac et que je tombais un peu amoureuse de la comédie humaine, je me suis dit, bon, bah, c'est ça la grande littérature et le reste, c'est de la merde. Et résultat, j'aurais jamais pu être à la hauteur des écrivains que j'aimais, tu vois. Je pouvais pas me comparer, en fait, à ça. J'avais pas trop... Alors que récemment, j'ai lu Annie Arnaud, que j'ai adoré. Je me suis dit, mais si j'avais lu plutôt Annie Arnaud, je me serais peut-être dit, ah bah tiens, peut-être que... Enfin, tu vois, même si c'est génial, mais j'aurais plus... Là, j'étais tellement... Je lisais des gros livres du 19e siècle où tu mets 200 pages à rentrer dedans. Enfin, et donc, c'était ça, le vrai, le pur, le dur. Et en fait, finalement, en écrivant quelque chose de plus simple, c'est là où je me ressemblais le plus, quoi.
Ok.
Et je trouve que finalement, c'est un peu la leçon, tu vois, de mon expérience. Tu verras, est-ce que t'as 21 ans, là ?
Oui, c'est ça.
Oh là là.
Bientôt 22.
Bientôt 22. Ben, moi, j'en ai bientôt 33. Et en fait, je trouve que la vie nous amène vraiment pas forcément là où on imagine. Et en tout cas, pas dans une idée... En tout cas, moi, ça n'est à chaque fois quand j'imaginais que je voulais rentrer au Conservatoire national et faire du théâtre public avec de grands metteurs en scène de théâtre. Bon, et ben finalement, je me suis retrouvée à faire du stand-up, tu vois, et avoir un podcast qui s'appelle Les mecs que je veux ken. C'est-à-dire que c'est étonnant comme finalement ce qui c'est pas. En fait, c'est même la même déconstruction qu'il faut avoir en tant que femme, quoi. C'est-à-dire que t'as vraiment les rêves de princesse, de prince charmant. Et puis finalement, ensuite, t'as la réalité. Et il faut être prête aussi à pouvoir embrasser la réalité bien différente de... Toi, ton petit copain, vous êtes rencontrés, vous étiez dans la même classe ?
On était dans la même classe, mais on ne se connaissait pas trop parce que la première année, c'était Covid. Donc, on a eu 6 mois de cours en ligne. Donc, forcément, rencontrer les gens, c'est un peu compliqué. Et donc, on s'est rencontrés à la fin de l'année, à la réouverture des bars, parce que c'est plus pratique pour rencontrer des gens. Et donc, voilà, on est dans la même classe, même école. Et après, on avait pas mal de potes en commun, donc ça aussi, c'était plutôt pratique pour pouvoir se voir.
Ouais.
Et ensuite, bah, on a passé l'été chacun de son côté, parce que moi, j'étais en stage dans une maison d'édition à Bruxelles.
D'accord.
Et lui, il était en stage à Nantes, puis à Strasbourg, donc vraiment...
rien à voir.
Rien à voir, et donc je faisais des allers-retours, j'allais voir Strasbourg, donc comme ça, j'ai pu découvrir l'Alsace, très joli.
Oh.
Et donc voilà, et c'était assez chouette. Et bien là, pour le coup, en septembre, on n'était pas dans la même classe, mais même école, soirée étudiante, post-Covid, enfin post-réouverture de
ouais.
tout. Donc c'était plus sympa, c'était un peu vie étudiante plus
bah
marrante.
Ouais.
Sauf que sortir de prépa sur cours en ligne, c'est moins marrant, quoi.
Ah bah ouais, t'étais où en prépa ?
J'étais à Carnot dans le 17e.
Ah d'accord, mais ça veut dire que t'étais montée à Paris pour
ouais,
faire ta
pour
prépa.
Pour faire ma prépa, ouais, exactement.
Ouh, ça n'a pas dû être fastoche, non ?
Non, pas hyper marrant. Surtout,
ouais.
Du coup, pour moi, Paris, c'était très... Enfin, j'avais de la famille qui habitait à Paris, mais du coup, j'avais un peu une image de Paris très... Bah, je rentre chez moi, je vais à la bibliothèque et je travaille.
Ouais.
Ce qui n'est pas le plus marrant, finalement. Il y a quand même d'autres trucs beaucoup plus sympas, quoi.
Bah, Paris, ouais,
et
bien
donc,
sûr.
Et donc là, maintenant, depuis que je suis en stage, c'est que j'aime plus profiter, découvrir des endroits.
Ouais.
Des cafés, des librairies, tout ça. Enfin, c'est
ouais.
beaucoup plus agréable que juste aller à la bibliothèque, quoi.
Après, je sais pas si c'est la ville non plus la plus fun et la plus étudiante de la Terre, Paris, quoi.
Non, je pense pas, mais quand même,
ouais.
hors prépa, c'est quand
ouais.
même plus sympa.
Oui, oui, oui. Parce que donc, t'es venue de Montpellier, t'es montée à Paris.
Et après, j'étais à Nantes.
Et après, t'es été à Nantes.
Ouais, c'est ça.
Et Nantes, c'est cool.
Nantes, c'est très cool. Pour
ouais.
le coup, c'est hyper étudiant. Il y a un vrai centre et tout. C'est,
ouais.
c'est plus sympa, quoi.
C'est moins cher.
C'est moins
plus
cher,
accessible.
C'est plus petit, en plus.
Ouais.
Juste pour savoir où tu retrouves tes
ouais.
potes.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'à Paris, pour choisir un bar, faut y aller, quoi.
Ouais, ouais.
C'est compliqué.
Ouais, ouais. Et puis, même se faire un resto ou quoi, d'un
ouais,
coup,
ouais,
tu
clair.
Peux pas t'en faire plusieurs dans la semaine. Enfin,
ouais,
c'est un autre...
beaucoup plus cher, quoi.
Ouais.
Aussi. Donc, moins pratique, je pense, pour la vie étudiante. Mais il y a des gens à qui ça convient très bien, mais moi, j'aime bien quand c'est plus resserré. Après, pour le coup, Paris, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de spectacles.
Mmh.
Donc là, on a pu voir, on a été voir plusieurs humoristes et tout, donc ça
okay.
c'est plutôt chouette quoi.
Ouais, t'es venu avec ton copain me voir,
ouais,
c'est ce que
c'est
tu
ça.
M'as écrit. Ouais.
On est venu pour voir toi, on a été voir
ouais.
Kian Kojandi, Pierre Thévenoud, donc on
oh
avait
oui
plein de trucs hyper différents.
Est-ce que c'est grâce
chouette.
À moi que t'as découvert Pierre ou non, tu l'avais aussi
non,
découvert
ça, c'est pour le coup, c'est lui qui a eu les places à Noël.
Ah, c'est lui qui a eu les places, ouais, super.
Et donc, c'est assez chouette d'aller voir plein de spectacles. Puis la salle est toute petite et tout.
Oui, le point virgule, ouais.
Donc j'aime bien même la nouvelle scène. Enfin, c'est des
beau,
salles, des endroits
ouais.
que je connais
ouais.
pas, quoi. Donc c'est plutôt agréable de découvrir des artistes et des endroits.
C'est sûr que la proposition culturelle à Paris est
ouais,
hyper hyper variée, hyper riche.
Ouais,
c'est ouais.
Cool.
Ouais, ouais.
Je sais pas si t'as vu la pièce 1h22 avant la fin avec
non.
Kian Kojandi.
Ah non, j'ai pas vu.
À la Scala, et c'est vraiment super marrant et hyper touchant et tout. Et à la Scala, c'est un assez grand théâtre
ouais.
aussi. Et c'est vraiment marrant. Donc c'est plein de trucs que je serais pas allée voir comme ça, sinon
ouais.
j'aurais pas fait l'aller-retour à Paris pour y aller parce que ça fait beaucoup, quoi. Mais donc là, comme on y est, découvrir plein de choses, je trouve ça assez chouette.
Et est-ce que t'as le pass culture ou non? Ça, c'est pour il faut être plus jeune.
Non, je crois que c'est plus jeune.
Les
il me
lycéens,
semble que c'est
ouais.
jusqu'à 18 ans. Parce que je crois qu'à parfois, ma mère s'achetait des trucs avec la pass culture de mon frère, donc je pense que c'est plus jeune.
Et est-ce que t'as pas trop souffert à Audencia d'avoir une personnalité littéraire voulant bosser dans l'édition et d'être avec des gens qui sont en école de commerce?
Ah, si, c'est compliqué un peu. Bah,
ouais.
Déjà, il n'y a pas beaucoup de master à Audencia en rapport avec la culture. Donc là, on doit choisir nos spécialités, donc il y a déjà ça. Mais puis surtout, travailler dans la culture, c'est pas très bien payé.
Mm.
Donc pour rembourser les prêts d'une école de commerce, ça fait déjà un petit décalage. Et puis être avec des gens qui parlent de finance tout le temps, c'est moins marrant que d'être avec des gens qui aiment bien lire.
Et
on est quand même quelques-uns à Audencia à vouloir
ah
travailler
ouais
dans la culture.
Ah.
Parce que c'est une des écoles de commerce qui est quand même un peu axée management, des institutions culturelles, tout ça.
D'accord.
Donc il y a quelques personnes qui aiment bien culture ou alors, livres, histoire de l'art, tout ça.
Mm.
Mais c'est sûr que c'est pas la grande majorité des gens, quoi.
Non, c'est pas la grande majorité. Alors que par contre, je crois qu'à HEC, il y a pour le coup énormément de gens aussi très branchés culture.
Ouais, c'est possible. En plus, c'est des gens qui viennent beaucoup, souvent de plus grosses, enfin de prépa très grande, enfin je veux dire très littéraire. Par exemple, ceux qui viennent d'Henri IV, ils peuvent être allés directement d'Hippocagne à HEC. Il y en a moins dans les plus petites écoles, je pense, les écoles moins bien classées.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en effet ont fait des Hippocagne et qui sont ensuite allés à HEC. Bah, c'est le cas de Maud Ventura, l'écrivaine
ah ouais.
qui est venue dans le podcast, qui en effet, c'est... en plus elle a fait l'ENS carrément à côté. Mais c'est vrai que j'ai pas mal... d'amis de retour. Et c'est marrant parce qu'on a le cliché d'HEC, un peu comme l'école de commerce, de gens qui veulent faire de l'argent et être très riches, alors qu'en fait, pas que. Il y a toute une dimension très axée culture à HEC. Alors que par contre, dans des écoles de commerce de province comme Audencia, il y a des gens qui veulent devenir traders, c'est ça ?
C'est toujours un peu fou pour moi. Et ceux qui font des stages dans la finance, je ne comprends pas ce qu'ils font, ils me racontent. Mais même, c'est marrant, là, dans l'édition, il y a plein de gens, il y en a qui ont fait des masters d'édition, mais il y en a beaucoup qui sortent d'école de commerce, comme quoi il y a de tout, quoi. Donc c'est marrant que quand tu sors du lycée, on te dit « Ah, bah, si tu fais pas une prépa, tu vas rater ta vie », sauf que finalement, tout le monde fait des trucs différents et tout le monde se retrouve un peu au même endroit, quoi.
Donc,
c'est un peu étonnant quand tu te dis « Bon, bah, j'aurais pu choisir autre chose », mais on m'a pas trop expliqué les différentes possibilités.
Toi, au lycée, tu savais déjà que tu voulais peut-être un jour travailler dans un milieu littéraire ?
Ah, pas du tout. Moi, au lycée, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je savais que j'aimais les lettres, enfin les langues beaucoup, les lettres aussi. Et donc, c'était un peu le flou. Un espèce de flou en mode bon bah je sais pas, et donc la prépa c'était un peu déjà un moyen de repousser le choix. Deux ans de battement, et après de se dire bah ça ferme pas trop de portes et ça quand même ça permet de faire plein de choses, d'aller en école de commerce, et donc c'était un peu la source de la décision, qui en était pas vraiment une, mais bon quand même.
Et tes parents, ils font quoi?
Mon père, il était prof d'anglais.
Maintenant
il est à la retraite, mais il était prof d'anglais dans des écoles d'art appliqué, de trucs audiovisuels, tout ça. Et ma mère, elle bosse dans la com, à Montpellier, pour la métropole.
D'accord.
Un peu divers. Mais mes parents sont assez lettres, surtout mon père. Ma mère aime beaucoup lire, donc c'est ça qui est chouette. Parce qu'ils aimeraient bien que j'aie de l'argent, mais en même temps, ils comprennent que j'aime bien lire, quoi.
Ouais. Et attends, une question que me posent souvent mes invités, humoristes ou comédiens, ils me disent « Mais est-ce que ça intéresse les gens ? Est-ce que ça, c'est pas trop private ? Est-ce que ça, c'est pas... Est-ce que... » Enfin, parfois, moi, je sais que non, mais ils me disent... un peu naïvement, est-ce qu'ils vont comprendre, tu vois, si on parle de... Est-ce que toi, quand t'écoutes les épisodes, justement, quand tu... le milieu de l'humour, les mecs que je ken, est-ce que tu te dis « Oh, chouette, un milieu que je connaissais pas qui m'intéresse » ou est-ce que parfois tu te dis « Ouais, je savais... Là, c'est un peu hermétique pour moi, je... »
Moi, je trouve ça chouette parce que t'invites quand même des gens qui viennent de milieux un peu différents que des milieux que je connais. Mais c'est souvent des milieux qui se recoupent, et donc c'est à chaque épisode, tu rapportes des choses que tu n'avais pas forcément dit, que ce soit sur le stand-up, sur le théâtre, ou sur les choses qui se recroisent, comme par exemple là avec Lola Wesh, c'est un peu un croisement des deux, et donc c'est assez intéressant de voir aussi les expériences des gens sur un même milieu qui est plein de trucs différents, et que sinon en plus on n'a pas, sans ce genre d'épisode et de podcast et d'interview, c'est un ressenti intérieur d'un milieu qu'on ne connaîtrait pas autrement.
Ouais.
Si je regarde un spectacle, je ne sais pas forcément comment il a été écrit, comment la personne l'a vécu.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
C'est un peu différente, je pense.
Bah, avec Arnaud, aka Lola Wesh, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de vie intime, d'amour, de relations toxiques, mais je pense par exemple à un épisode qui a très bien marché, mais avec Fred Cham, c'est-à-dire un humoriste, tu vois, c'était le début là, de la saison 3, et on part vraiment dans un truc hyper aficionado, ça citait tous les humoristes américains, et être vraiment dans une discussion purement stand-up, ça c'est intéressant aussi.
J'aime bien aussi, bah, c'est chouette de découvrir après, parce qu'il y a des humoristes américains qu'on ne connaît pas forcément, d'autres qu'on connaît. C'est chouette d'avoir les avis des gens. Souvent, tu parles de Sarah Silverman, et elle est hyper marrante. Et c'est marrant d'avoir l'approche d'une humoriste sur une autre humoriste, d'avoir des ressentis différents, tout ça. Donc c'est pas, et puis, c'est pas les mêmes ressentis que « Ah, elle est marrante, elle écrit bien » et « Ah, mais je sais qu'elle travaille comme ça, que lui travaille comme ci », c'est un peu... C'est assez intéressant, je trouve, de pouvoir découvrir d'autres aspects de ça.
Et toi, donc, t'écoutes les épisodes le lundi, c'est ça, quand ils sortent ?
Souvent, ouais. Et sinon, je rattrape... en ce moment, je rattrape un peu les saisons d'avant. Parce que je pense que j'ai écouté toute la saison 3.
Ok.
Et donc là, je rattrape un peu le reste. Il n'y a pas longtemps, qu'est-ce que j'ai écouté ? J'ai écouté Thomas VDB la semaine dernière,
je pense.
Ah
oui, la saison 2, ouais.
Et donc voilà, et parfois, je prends un peu au pif. Et donc, c'est marrant parce qu'il y a toujours l'intro qui est un peu d'aujourd'hui.
Oui.
Et donc, ça resitue. Donc, c'est assez sympa de découvrir un peu tous les invités. Et puis souvent, c'est des gens que j'écoute beaucoup, par exemple, les chroniques sur France Inter.
Ouais.
Et donc, d'avoir l'épisode, un épisode d'une heure et demie entier, c'est...
Ouais, c'est une inscription dans leur vie.
Ouais, c'est un autre format, donc c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien.
Je suis assez fière de la saison 2, même si je pense qu'il y a des endroits un peu bizarres, vu que j'étais confinée chez moi. Donc, il me semble que je suis allée quand même dans des... Peut-être too much oversharing certaines fois. J'ai fait des trucs que j'assume plus, mais que j'ai laissé. mais par contre, la saison 1, je sais pas si j'arriverai à l'écouter.
Et ouais.
Ouais, parce qu'il me semble que j'étais un peu... Enfin, parfois un peu hystérique avec les mecs ou à glousser ou... Enfin bon, cela dit...
C'est naturel, du coup. Ouais. Ça donne un aspect plus discussion, du coup.
Ouais, ouais, c'est vrai. Mais j'espère parfois peut-être avoir un petit peu progressé. Est-ce que tu vas, quand tu écoutes un épisode, ensuite tu vas suivre l'invité sur Instagram, tu te renseignes sur sa vie et tout?
Oui, souvent je me renseigne, ouais. Ou alors je vais voir ce dont tu as parlé, les œuvres, les pièces, les moments de stand-up que je ne connais pas, par exemple. Et si je ne connais pas, en général, je regarde avant. Avant d'écouter l'épisode, je regarde juste vite fait qui est la personne.
Ah, trop bien.
Après, je comprends mieux, par exemple, ton poème et les discussions.
Ah, c'est bien ça, c'est bon à savoir.
Par exemple, il y avait un épisode avec, c'était Valentin de Carbonnière, ouais. Je crois, et je connaissais pas. Et donc, j'ai été voir un peu avant d'écouter tout l'épisode pour pas être non plus jetée dans l'inconnu. Même si je le fais pas forcément toujours, mais je trouve ça assez intéressant de pouvoir un peu savoir avant à quoi m'attendre, entre guillemets. Quoi.
Ouais, c'est vrai, ça c'est intéressant. Est-ce que tu as écouté les épisodes meilleurs moments ou j'ai arrêté de les faire récemment, j'avais plus le temps.
J'en ai écouté quelques-uns et pas tous. En fait, parfois, j'avais l'impression que je buguais et que j'avais remis l'épisode parce que parfois, ça s'enchaîne après celui d'avant.
Ouais.
Et sinon, j'aime bien parce que du coup, c'est vraiment des moments hyper courts et c'est intéressant de savoir ce que tu as pensé qui était le meilleur moment. Parce que c'est pas forcément ce que n'importe qui aurait choisi, quoi.
Oui, en plus, je pense jamais que ce soit tout à fait vraiment le meilleur moment, mais parfois, c'est un court temps, un temps précis sur un thème qui est peut-être un petit peu moins dilué que tout le long de l'épisode. Mais j'ai eu plus du tout le temps de le faire ces derniers temps. J'ai eu plus le temps. Un reproche qui m'est. Il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui sont pro-intro et ceux qui trouvent que parfois c'est trop long. L'enchaînement du pré-roll, plus de l'intro, qui veulent être tout de suite dans la discussion. Toi, tu fais partie de quelle...
Moi, j'aime bien les intros. Je trouve que... Mais c'est rigolo, en fait, de savoir un peu l'état d'esprit au moment où tu l'édites, où tu le produis. Je trouve ça assez marrant. Surtout que parfois, c'est une intro vraiment dans un épisode décalé, si t'écoutes un peu en décalé. Et donc, c'est assez marrant. Puis il y a pas mal de podcasts, je trouve, où il y a une intro qui est un peu qui situe... l'interview. Et je trouve ça assez chouette de pouvoir avoir deux aspects de la discussion, ou quand tu fais ton retour sur la discussion aussi, quand à la fin tu dis on a parlé de ça, moi j'ai adoré ça, je trouve que c'est chouette parce que forcément, parfois tu relèves des moments auxquels j'aurais pas forcément pensé ou l'inverse. Moi j'aime bien.
Ouais. Oui, tiens, ça c'est ça qu'il faut que je fasse en outro, c'est dire ce moment-là, redire, avoir une espèce de vision sur l'épisode. Récemment, j'ai pas eu beaucoup le temps d'en faire, mais oui, d'accord, non, ça c'est bon à savoir. Relever le moment.
Toi, tu préfères tes intros ou tes outros à faire?
Je trouve que l'intro, c'est quand même nécessaire parfois pour présenter l'invité, dire. Enfin, idéalement, il faudrait que je le fasse même mieux. Je veux dire, aujourd'hui, je reçois et dire, faire plus en détail la bio. Après, parfois, pourquoi j'ai la flemme? Parce que je me dis, c'est déjà dans le poème, je rappelle déjà. Donc, parfois, je vais un peu rapide.
Puis c'est écrit en plus souvent sur la présentation.
Ouais. En toute sincérité, Margot, est-ce que parfois, il n'y a pas trop de promos sur le spectacle? Je ne suis pas trop harcelante envers les auditeurs?
Non, mais il y a une période où il y avait le spectacle, une période où il y avait le livre. Après, en plus, il y a ça dans tous les
podcasts.
Mais il faut bien vendre son spectacle.
Merci, ça me rassure. Parce que parfois, j'ai l'impression d'être un peu oppressante. Mais en même temps, je me dis, oui, c'est le but du jeu, ça fait partie du...
Surtout qu'il y a peut-être plein de gens qui découvrent le podcast pour la première fois et qui, du coup, ne savent pas.
Et oui, absolument. Et oui, donc, il faut vraiment... il faut bien le rappeler. Oui, parce que parfois, ça ne va pas de soi si tu ne le dis pas. Moi, je reçois toujours des gens, des messages, genre, ça atteint un spectacle, donc... Ouais. Non, l'intro, écoute... Non, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois, je me souviens, je crois que j'avais... Pour l'outro de l'épisode avec Edgar Yves, Monou, qui est venu en saison 2, je m'étais mise à chanter Barbara. Et j'avais eu quelques retours comme quoi c'était vraiment pathétique.
Ouais, cet épisode, je ne l'ai pas écouté. J'ai écouté tes retours sur toi-même en disant que tu aurais dû couper le moment où tu chantes parce que tu en reparles dans un autre épisode.
J'ai eu longtemps honte. J'ai toujours honte, mais je l'ai coupé. Hein. Je l'ai coupé le lendemain. Mais il y a quand même toute une partie des auditeurs qui ont dû quand même m'entendre chanter Barbara en outro. Et je crois que c'était vraiment pas juste. Quoi. Mais après, j'ai eu toute une période DJ-t aussi. Mais je crois que c'était surtout pendant c'était la saison 2 quand j'étais confinée. Quoi. Je mettais des musiques en outro.
C'est marrant.
Et de la musique italienne et tout ça.
Toi, tu peux chanter chez toi, autant chanter sur son podcast. Ça divertit.
Ouais. Mais je crois que je chantais pas très bien. Mais j'ai fait des outros aussi. Attends, j'ai fait des outros avec ma mère, parfois en vacances. Je suis avec quelqu'un et je fais une... j'ai fait des outros avec Julie Albertine quand on était à New York. Ouais, non, c'est vrai que parfois, c'est pas mal quand t'es avec quelqu'un pour débriefer, pour poursuivre la discussion. Dans l'intro, je t'avoue, dont j'ai honte, je crois que c'est l'épisode avec Elvire Duvel-Charles, du compte Clit Révolution.
Oui.
Et en fait, je devais faire une promo. C'était l'un de mes tout premiers partenariats.
Okay.
Et c'était avec Baobo, une crème pour la vulve, genre hydratante. Et qu'est-ce que j'avais raconté ? Mais en plus, moi, je m'étais vraiment motivée. Ça veut dire que l'intro faisait un quart d'heure, 20 minutes, tu vois. Parce que maintenant, alors que maintenant, il y a un pré-roll, c'est une minute de pub pour une marque, tu vois. Mais et j'avais raconté que j'avais eu une mycose et les bénéfices de cette crème. Mais j'avais décrit ma chatte malade. Et maintenant, je me dis, putain, il y a ça quand même, tu vois, c'est là, ça existe, et j'en fais une description comme une espèce de fleur malade. Et en plus, je me souviens, j'avais dû l'enregistrer dans l'île, dans le golfe du Morbihan, où j'ai écrit mon bouquin, et il y avait cette espèce de fleur, tu sais pas, tu vois, séchée, mais en fait, hyper ça fait vraiment...
Danger, quoi.
Et genre, j'avais comparé ma chatte à tout ça pour faire la promo de cette crème, et récemment, ouais, je me suis quand même dit, ah, quand même, si... Ça veut dire que si je rencontre un gars, il peut aussi aller écouter ça, quoi.
Ouais, après, il peut aussi aller écouter Hotline et se dire « Ah ouais, elle est plus ouverte que moi, il faudrait que je fasse un travail et tout. » C'est double tranchant.
Ouais, c'est vrai. Et avec ton copain, d'ailleurs, lui aussi, il écoute Hotline ?
Non, il est pas très podcast. Alors déjà, quand je lui envoie, lui, il est fan de sport, donc si je lui envoie des podcasts sur le sport, il les écoute pas. Alors des podcasts...
Oh ouais, sur la déconstruction...
Il a un peu la flemme d'écouter des podcasts, il préfère regarder du sport, quoi. C'est sa passion, sa grande passion dans la vie.
Ouais.
Donc chacun son truc.
Bah après...
Parfois, il est là quand j'écoute, parce que souvent, quand je range, j'écoute et tout, donc... Il rentre et me dit « T'écoutes encore des trucs qui parlent de cul ?» Je dis « Ah oui, bah, oui, ça m'amuse bien, quoi. » Et donc, je lui fais des récaps parfois quand ça parle de choses un peu différentes. Ouais. Et il dit « Ok. » Il écoute d'une oreille et il fait autre chose en même temps.
Et ça l'intéresse.
Donc, c'est marrant. Ah. Ouais, je pense que ça l'intéresse un peu, qu'il ne sait pas exactement trop de quoi ça parle, mais je pense qu'il n'aurait pas l'énergie d'écouter deux heures. Donc, moi, parfois, j'en écoute trois dans la journée si je ne fais rien ou quoi.
Waouh bon. Ah ouais, t'es une sacrée...
C'est très occupant. Quand je suis toute seule au bureau, avoir un petit truc en fond, si je travaille sur Excel ou quoi, avoir un podcast, ça ambiance un peu plus, quoi.
Oui, c'est vrai que tu te sens moins seule. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc de compagnie... Moi, ça, c'était vraiment pendant les confinements, mais parfois, par période, je change, j'écoute plus ou moins des podcasts différents. Et il y avait quand même, en effet, ce côté d'avoir des voix chez toi ou des gens qui te parlent quoi, dans l'oreille. Il y a ce truc-là. Et ton copain, tu m'as dit, lui aussi, il veut faire quoi ?
Lui, il veut travailler dans le sport, dans un peu l'événementiel sportif, les JO, les fédérations, tout ça, c'est plutôt dans ce monde-là. Donc toujours culture, toujours mal payé, mais une autre branche de la culture. Donc c'est assez marrant. Et pour le coup, autant moi je lis beaucoup, autant le sport est en boucle. Et tous les matins, c'est qui a gagné quoi au basket, en vélo, en machin, en truc. Et moi je suis là.
Waouh, ouais, c'est son délire, quoi. Mais résultat, quand t'écoutes Hotline et que tu nous entends raconter nos histoires de mecs les plus catastrophiques les unes des autres, est-ce que ça te parle ? Est-ce que toi aussi, t'as rencontré des mecs comme ça ou...
Ah ouais. Aussi, ouais. Mais moi, j'aime bien parce qu'en fait, dans Hotline, vous avez plein de...
Témoignages différents.
Témoignages et qui, du coup, se rapprochent de plein de petites histoires un peu différentes que j'aurais pu vivre ou que parfois j'en parle parce que j'ai une copine qui écoute aussi maintenant.
Okay.
Et donc, quand on en parle, on se dit que ça ressemble à plein d'aspects des mecs qu'on a connus ou qu'on connaît, que ce soit nos potes ou nos ex ou quoi. Et donc, c'est marrant parce que plein de gens qui viennent de milieux hyper différents, qui n'ont pas le même âge et tout, et tout le monde a les mêmes problèmes de mecs débiles, quoi.
Ouais.
Donc, c'est un peu... Ouais, c'est un peu... Ouais, moi, avant, le mec avec qui j'étais avant, c'était c'est une relation hyper fouille. Et donc, j'étais là, super. Et j'écoute le podcast et je me dis, ok, je ne suis pas toute seule. tout le monde se fait avoir, on n'est pas toute seule. Donc, c'est plutôt chouette. Puis, c'est pas pareil d'en parler avec ses potes que d'écouter des conseils un peu de tierces personnes qui ne connaissent rien et qui disent des conseils plus généraux aux auditeurs ou sur les anecdotes sur vos vies.
Ouais.
Je trouve ça assez chouette d'avoir plusieurs points de vue.
C'était quoi, toi, ton parcours amoureux de petite fille à adolescente à jeune femme, est-ce que t'avais des attentes, une vision de l'amour un peu particulière?
Pas trop, moi je pense que j'avais un amoureux quand j'étais en CM2 et on était en amoureux pendant tout le CM2 et puis sa maman m'aimait bien donc j'allais à la piscine chez lui et ça c'était chouette parce que moi j'avais pas de piscine.
Oh wow.
Et donc ça c'est chouette, les gens qui ont
une piscine, incroyable.
C'est quand même pas mal. Et puis après, mon premier amour, premier copain, il avait aussi une piscine, comme quoi c'est...
Ouh Michto.
Ça, c'était en fin terminale, donc ça, c'était mon premier copain, parce qu'avant, il y avait des... fois des crushs, mais qui étaient un peu basés sur rien et donc pas réciproques, puisque basés sur une non-connaissance de la personne, plus au lycée, le mec beau qui a 2 ans de plus et qui est trop beau, mais bon, qui a rien. Et donc voilà, j'avais mon copain en terminale, mais donc après, moi je suis partie en prépa, lui était toujours à Montpellier, donc forcément ça aide pas. Puis j'ai eu un copain en prépa avec qui ça s'est pas très bien fini, puisqu'il était pas hyper gentil. Et après, le mec avec qui j'étais avant, qui était plus ou moins mon mec, plus ou moins relation libre, plus ou moins plan cul, pendant un an et demi, et c'était un peu long, parce qu'en milieu, il y a eu le confinement. Puis pendant le confinement, il m'a dit qu'en fait, c'était trop dur de parler par message, parce que je leur demandais trop d'attention. Puis après, c'était « Ah, mais finalement, je t'aime bien. Ah, mais finalement, j'aime bien coucher avec d'autres gens. » Et donc, c'était un peu compliqué, quoi. Donc au bout d'un moment, j'ai dit bon, bye bye. Et mes copines m'ont dit ah bah enfin, enfin merci, réveille-toi. Et là, c'est là que je me suis dit que quand après j'étais un peu toute seule et qu'après j'ai rencontré un mec gentil, je me suis dit ah c'est quand même vachement plus agréable de sentir qu'on dérange pas. C'était un peu ça quoi.
Ouais.
Donc, c'est pas un peu compliqué comme en plus on avait des potes, enfin beaucoup de potes communs.
Avec l'autre gars,
et que du coup, après, que c'était « Ah, tu me fais passer pour le méchant », alors que non. Donc toujours une espèce de compétition entre lui-même, son ego, et c'est un peu compliqué.
Le mec de prépa.
Même pas.
Ah ouais.
Un pote à la deux potes de Montpellier, qui même pas prépa, quoi. Juste problème d'ego, comme quoi c'est partout.
Ouais, c'est ça, c'est vrai, t'as raison, c'est des problèmes d'ego. Et c'est terrible quand le gars te fait sentir que t'es chiante alors que t'as juste envoyé un petit message. Et
Surtout que moi, j'étais en période de révision pour mes concours.
Oui, donc
j'étais
plus,
un peu stressée, quoi.
Ouais, juste un petit bon courage, quoi.
Il est trop sympa, il a attendu le jour de la fin de mes concours pour me larguer. C'est quand même super sympa.
Ah, c'est lui qui t'a largué finalement ?
Mais en fait, il y a eu premier semi-largage, on n'est plus en couple, mais on se voit encore. Ensuite, il m'a quitté le jour de la fin de mes concours, puis il est revenu, parce que, changé d'avis. Et après, ça continue un peu à distance, machin, et là, j'ai dit, pas possible.
Ouais, t'as réussi à mettre les limites.
Ouais, je me suis dit que c'était un peu pas hyper sympa envers moi-même, quoi, alors qu'il avait rien d'extraordinaire en plus, finalement.
Ouais.
Mais maintenant, je me suis dit que ça m'a quand même pris du temps.
Ouais.
Et quand j'en parle avec mes copines, elles me disent « Ouais, mais au moins, tu es arrivé, quoi, c'est bon. »
Parce que tes copines, elles s'en sortent beaucoup plus facilement avec les mecs ?
Pas forcément, mais en tout cas, elles avaient bien senti qu'il y avait un truc qu'il n'était pas sympa avec moi, quoi. Ouais. Et donc, elles me le disaient, et moi, je disais oui, puis j'y retournais, puis je revenais, et donc c'est sûr que... Après, c'était sympa aussi qu'elles ne soient pas en mode « Mais tu ne comprends pas, pourquoi tu continues ?»
Ouais, oui, elles c'était t'ont laissé le temps de comprendre par toi-même.
Ouais, ouais.
Ouais, ouais.
C'est compliqué, hein.
Bah, on peut rester longtemps avec un mec qui nous renvoie pas que de la douceur. Il suffit qu'il soit un petit peu, je sais pas, intelligent, un peu. Moi, je pense que vraiment, oui, il y a plein de gars qui étaient pas spécialement sympathiques et avec qui je me disais, mais c'est en fait c'est difficile d'avoir des exigences.
Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
C'est de dire, voilà, ce que je mérite.
Ouais, c'est dur.
Ouais. Et puis d'aller vers un... Ouais, il y a peut-être une question de... Je sais pas si c'est une question de chance, de rencontre, de milieu.
Ouais, peut-être de milieu aussi, ouais. Parce que là, du coup, c'est aussi quelqu'un qui fait les mêmes études que moi, ce qui aide aussi.
Ouais.
Parce que c'est plus facile de critiquer les écoles de commerce avec quelqu'un qui est aussi dans une école de commerce
Mais
et qui comprend, quoi. Qui sait qu'en même temps, c'est compliqué. Puis avoir des potes en commun, un agenda un peu commun de... tu es en stage, tu travailles, enfin un peu... Partager des trucs chouettes aussi, c'est plutôt agréable que d'avoir rien en commun dans notre vie, que ce soit professionnel ou quoi, mais c'est assez agréable, quoi.
Ouais, c'est clair. Et tes parents, ils sont toujours ensemble ?
Non, mes parents, ils sont séparés depuis 10 ans, même plus, je pense.
D'accord.
Et donc pour moi, ils ont un peu toujours été séparés, parce que je pense que j'avais 7 ou 8 ans.
Ok.
Donc j'étais petite, et donc maintenant, ils sont super potes, c'est marrant. Ma mère vient avec nous au Noël chez mon père.
Génial.
Si elle a rien de prévu, et donc c'est assez chouette.
Oh.
Parce que sinon, c'est... Enfin, moi, j'ai des potes pour qui ça se passe pas forcément bien quand les parents se sont séparés au lycée.
Ouais.
Alors que moi, comme j'ai toujours reconnu ça, bah, maintenant, c'est pratique, quoi.
Ouais.
Ça se passe bien et puis c'est marrant, ils sont potes, ils s'engueulent, je suis là, ouais. Mais...
C'est trop cool.
Ouais, c'est plus marrant.
Tes deux parents habitent à Montpellier ?
Ouais, les deux habitent à Montpellier avec mon petit frère.
Oh. Ton petit frère, non, il est toujours
frère.
Au lycée ?
Non, il a 20 ans, petit frère. Il a 20 ans.
Ah oui, vous avez qu'un an d'écart ?
Deux. Enfin, il va avoir 20 ans, ouais, on a deux ans d'écart.
Et qu'est-ce qu'il fait, lui ?
Lui, il fait un BTS en alternance.
D'accord.
Stratégique commerciale, il vend des voitures.
D'accord, ok.
Mais, voilà.
Et t'as pas de demi-frère, de demi-sœur
Non, j'en ai eu un moment quand ma mère s'était remise avec quelqu'un et qu'on habitait à 6 dans un appart et tout. Donc là, c'est un peu compliqué. Mais maintenant, non, chacun tranquille. C'est plus... Et du coup, quand je rentre, souvent je vais chez ma mère et je vois mon père de temps en temps. Mais l'appart chez ma mère est plus sympa. Il y a ma chambre et tout. Et mon père est chez mon frère et chez mon père. Et comme ça, on est un peu... Chacun voit tout le monde. Comme ça, il n'y a aucun de mes parents qui est vraiment tout seul tout le temps, quoi.
Est-ce que... Quand tu écoutes le podcast Les mecs que je ken, tu dis ah ouais, ça c'est vraiment du parisianisme.
Non, sauf l'aspect peut-être conservatoire parce que c'est plus un truc je pense
de Paris,
de Paris, l'aspect très théâtre classique, mais le reste non, pas trop.
C'est pas trop ça. C'est comment grandir à Montpellier ?
J'ai bien aimé Montpellier, c'est une assez chouette ville, un peu comme Nantes en termes de taille. Et c'est chouette parce que c'est très joli, le centre historique, c'est piéton. C'est historique, c'est un peu vieux, tout ça, c'est assez joli. Et en plus, mon lycée était en plein centre-ville. Et donc ça, c'était trop cool parce que j'avais un lycée vraiment immense. Il y avait un gymnase, une piscine, tout ça. Et donc, avec mes potes, on pouvait faire du sport au lycée. Et ensuite, on sortait, on avait les bars à proximité, si on habitait dans le centre ou pas. C'est assez pratique pour être en première terminale. Et quand tu sors un peu avec tes potes, c'est plutôt chouette. Parce qu'en même temps, tu sors et en même temps, t'es en sécurité parce que tout le monde habite près de là où on sortait. Et donc on pouvait aller dormir les uns chez les autres. C'était différent par exemple que quand je sors à Paris et qu'il faut que je rentre à 2h du mat et que là c'est toute une logistique, quoi.
Ouais.
C'est différent, je pouvais rentrer à pied si je voulais, quoi.
Oui, c'est ça, alors qu'à Paris s'il n'y a plus de taxi, il faut commander un Uber. Parfois il n'y a pas de Uber,
parfois ça
coûte 25 balles. Ouais, c'est drôle. Montpellier.
Bah pour le coup, le soleil aussi, c'est très sympa.
Ouais.
C'est un aspect qui est... Bah, du coup, tout le monde a des piscines, on en revient à ça.
Ouais, c'est ça.
Beaucoup de gens ont des piscines, la plage et tout, donc pour l'été, c'est sympa. Et puis même quand j'étais petite, on faisait tout le temps des trucs à la plage pour les anniversaires, des trucs comme ça, quoi.
C'est proche de quelle plage ?
C'est proche de Carnon, Palavas, la Grande Motte, tout ça, le Gros
c'est
du Roi.
C'est l'Atlantique ou la Méditerranée ?
Non, c'est la Méditerranée.
Putain, j'y connais rien.
C'est à côté... c'est pas très loin de l'Espagne, finalement, Montpellier, parce qu'on est à 3 heures de Barcelone.
Vous êtes à 3 heures de Barcelone, c'est pas... Ah oui, donc la mer est chaude, et vous mangez du jambon de Bayonne.
Ouais, on peut.
Ouais, c'est ça. Et c'est pas mal de charcut.
Pas mal de charcut. Ouais. Bah, en fait, c'est un peu... Il y a beaucoup de charcut et de fruits de mer, donc il y a un peu...
Ah ouais ?
Ouais.
Fruits de mer aussi.
Parce qu'il y a pas mal de... Je sais plus comment ça s'appelle, mais là, il y a des trucs où il y a des huîtres, plein de bars un peu fruits de mer au bord de l'eau, tout ça, à 7. C'est pas très loin de 7 aussi, mon pays.
Ah oui, 7, ça doit être très joli.
Ouais,
il y a pas mal
aussi.
De séries qui se tournent là-bas.
Oui, j'ai une de mes copines qui habite là-bas, et donc l'été, c'est plutôt chouette aussi, quoi.
Et oui, 7, c'est très beau. Et Montpellier, mais c'est pas sur la mer directe.
Non, c'est à 10 minutes en voiture.
Ah oui, non, c'est rien.
C'est quand même juste à côté.
Ah ouais, c'est juste à côté.
On peut y aller en vélo, en tram.
Oh là là.
Donc l'été, c'est pratique. Surtout que moi, j'ai toujours pas mon permis. Donc quand je peux pas exploiter mes potes ou mes parents, c'est pratique d'y aller en vélo.
Ah bah ouais, t'inquiète, j'ai toujours pas mon permis. Je vais avoir 33 ans. Ah oui, tu peux aller à la mer en vélo. Oh waouh. Mais d'un coup, ça me paraît en effet une vie rêvée. Donc toi, chaque année, tu te baignes à partir de quand t'habitais à Montpellier ? Avril ?
Mai ? Peut-être mai, juin, parce qu'en plus, juin, lycée, on finissait assez tôt.
Premier bain.
Et donc, mi-juin, quand on avait fini les cours, où on pouvait y aller le week-end, entre temps et tout. Mais le mieux, c'était le septembre, quand c'est déjà la rentrée, mais que tu peux toujours aller à la plage. Parce que c'est pas vraiment un esprit rentré. Ouais, c'est ça. Ça, c'est chouette.
Oh là là.
Après, pour le bac, c'était moins marrant, parce qu'il faisait 35 degrés dans les salles.
Ah, il fait très
chaud. Très chaud assez vite au mois de juin, là, pour les concours, tout ça, c'est moins pratique. Mais bon, c'est quand même sympa, le soleil.
Oh, waouh. Ouais, ça fait vraiment rêver comme vie. Moi, tu vois, je sais plus si je veux toujours passer autant de temps à Paris. Ça, c'est une chance que tu n'imagines pas d'avoir plusieurs vies, une vie dans la ville et une vie dans la nature. C'est quand même idéal. De respirer l'air frais, et de se baigner, ça me manque. Mais en même temps, je me dis peut-être que est-ce que j'apprécierais ça autant si je l'avais tout le temps à disposition, je sais pas.
Ouais, je sais pas, c'est ça qui est différent, quoi. Parce que moi, je sais que ma mère, par exemple, à la base, elle est parisienne. Okay. Et elle dit toujours qu'elle adore Paris, mais ça fait quand même 20 ans qu'elle n'y est pas retournée. Ouais. Parce qu'elle passe sa vie à la plage, quoi. Ah, donc, elle ne pourrait pas, je pense, maintenant, habiter dans une ville où il n'y a pas la plage.
Ah bah ouais, non, c'est sûr. Ouais, je comprends.
Donc, c'est marrant, parce que du coup, il faut faire plein de... Il y a plein de... Ah, j'adore Paris, mais en même temps, aller à la plage le week-end, c'est quand même plutôt pratique.
Ah non, mais aller à la plage le week-end, tu me parles d'une vie, mais d'une vie que...
Bah même là, là, on est lundi. Ouais. Je crois que ce matin, j'ai reçu un texto de ses pieds devant la mer. Je suis
là,
bah,
oh là là.
Moi, je suis au bureau, bisous.
Ah ouais.
On n'a pas la même vie.
Ah oh là là, la chance. Et attends, Montpellier, ça vote quoi, ça? C'était...
Ça vote... Alors, le maire, il est socialiste. Okay. Ça a voté Mélenchon, je crois.
Au premier tour. Ouais, premier tour, ouais, Mélenchon. Il est arrivé premier, ouais.
Ouais, 45%, je crois.
Ah, c'est énorme. Ouais.
Parce qu'il y a pas mal de... C'est assez... Enfin, comme c'est assez étudiant, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes. Et puis, c'est quand même une ville assez à gauche, quoi. C'est un mix entre socialiste et les Verts, la mairie. Et donc, maintenant, c'est très...
Bon, je vais aller m'installer là-bas.
Ouais, il y a des vélos. Ah, après, ce qui est un peu chiant, c'est qu'ils ont coupé des routes pour mettre des pistes cyclables. Okay. À côté d'endroits où il y avait déjà des pistes cyclables.
Ah.
Donc, c'est un peu le bordel.
Ok.
Mais bon, sinon, c'est assez sympa.
Oh là 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 là, le rêve. Attends, mais tu sais quoi? Je vais te poser les questions du questionnaire de Proust en détail. Parce qu'il y a plein de questions que j'ai jamais le temps de poser aux invités. Et qu'il a, je vais avoir plus le temps. C'est des questions aussi sur tes auteurs préférés. Alors... Est-ce que je te pose... Tiens, je vais te poser des questions que je pose jamais. Ta couleur préférée?
Le bleu.
Ta fleur préférée?
Peut-être le tournesol. Je trouve ça assez joli.
De près, c'est bizarre un tournesol. Hein.
Ouais, mais c'est assez beau en champ.
Ah, en champ, c'est magnifique.
Il y a pas longtemps, j'ai été en Normandie chez une copine et il y a des champs de tournesol partout autour de chez elle. Et c'est vraiment super beau. C'est vrai que de près, c'est bizarre.
De près, c'est un peu... Enfin, la matière est étrange, quoi. Ça ressemble plus à une bête qu'à une fleur. Puis c'est long et c'est... Mais de loin, ça ressemble vraiment à des personnes. Je sais plus, c'était Angèle, elle avait fait une vidéo, elle faisait un concert devant des tournesols et on disait, on aurait vraiment dit des gens qui la regardaient, quoi. Mais c'est vrai que c'est... En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que ça a une tête... Le tournesol a sa personnalité. Est-ce que parfois, quand ils sont bien tournés, on voit qu'ils regardent le soleil, puis parfois, t'as vu, t'as des tournesols qui baissent la tête, qui sont un peu en dépression, ouais. C'est rigolo en fonction de la lumière. Moi, j'adore le muguet, je crois. Je trouve ça vraiment trop mignon.
Tu t'en as acheté hier?
Bah, mes voisins m'en ont offert.
Ah, c'est trop mignon.
Ouais, c'est les meilleurs voisins de la Terre. Mais oui, je trouve que ça sent trop bon. Et ça ressemble vraiment à une petite cloche de vie, quoi. C'est-à-dire que ça ne m'étonne pas quand je vois du muguet, qu'il y ait des peintres qui aient un peu illustré une idée du paradis avec des grands nuages et des grappes de raisin et du muguet, quoi. Il y a un truc très, très idyllique, quoi. Et ça sent bon.
C'est vrai que ça sent très bon.
Mais je crois que ma fleur préférée, c'est le mimosa.
Ok.
Ouais.
C'est joli, le mimosa.
C'est doux. C'est
ouais,
la texture du mimosa, c'est tellement doux. C'est hyper doux, puis c'est orange, et puis c'est hyper fragile. Et c'est beau.
Ouais. Si tu le bois, il y a du champagne dedans.
Oui. Est-ce que tu as un oiseau préféré?
J'ai pas d'oiseau préféré. Moi, j'aime bien les petits oiseaux, les bébés oiseaux.
Oh, ouais.
Qui vont manger du pain et tout. Ouais. C'est mignon. Petit moineau.
C'est vrai que les petits moineaux, c'est trop mignon. On dirait des petits vieux parce qu'ils ont quand même déjà un peu de bidon. Et donc, tes auteurs préférés, donc c'est ce que tu m'as dit.
Ouais, les cerfs-volants de Kaboul.
Ouais.
Après, j'ai lu que celui-là de cet auteur.
Ouais.
Et sinon, j'aime beaucoup aussi Milan Kundera.
Ah oui, bien sûr.
Parce que Insoutenable légèreté de l'être aussi, c'est un livre que j'aime beaucoup. Et voilà, mais là, en ce moment, je découvre plein d'autres nouvelles auteurs. Donc, c'est plutôt, plutôt chouette.
Grâce au stage dans la maison d'édition.
Ouais, et puis grâce à mes copines aussi, mes nouvelles copines de mon stage, qui lisent beaucoup.
Ouais.
Et donc, on fait un peu des croisées de qui a lu quoi, quel est ton livre préféré. Là, je me suis acheté Les mains du miracle de Joseph Kessler. Et donc, ça a l'air un peu dur, mais sympa, sur le kiné de Himmler.
Ouh, le kiné de Himmler, le gars qui massait Himmler, quoi. L'ostéopathe, le gars qui est incroyable.
Bonne ambiance, parce qu'en fait, j'ai une copine qui est fan.
Tu m'étonnes qu'il ait des tensions, Himmler, quoi.
Passion, Seconde Guerre mondiale, tout ça, parce qu'elle est fan d'histoire.
Ouais.
Donc, elle lit plein de livres là-dessus. Et donc, j'en ai lu plein là-dessus. Et donc, bonne ambiance, quoi.
Oui, moi, c'est ce que j'ai fait au CM2, puis ensuite, je me suis calmée.
C'est un peu jeune, CM2.
Ouais, CM2, passion, Seconde Guerre mondiale. Puis après, je me suis dit, il faut que la vie soit quand même un tout petit peu plus light. Est-ce que tu as des héros ou héroïnes de fiction préférées?
Bah, en ce moment, j'ai fini Killing Eve et donc j'aime bien
La tueuse
Villanelle dans Killing Eve,
dans la série.
Extraordinaire,
elle est très badass.
Elle est très stylée, quoi.
Et est-ce que tu as des héros dans la vraie vie, par exemple, des personnes ayant existé, dont le parcours type Marilyn Monroe, ou tu vois?
Bah, j'adore, je crois que tu l'as dit dans le mail, j'adore Taylor Swift.
Ah oui!
Je trouve qu'elle est hyper talentueuse, elle écrit toutes ses chansons, tout ça. Et puis tout l'aspect où elle a racheté ses... Elle réenregistre ses albums pour racheter ses masters. Je trouve que c'est assez inspirant de voir ça. J'aurais bien aimé, moi, avoir un peu une fibre artistique.
Ouais.
Et donc, j'aime beaucoup toutes ces chansons, l'aspect assez... c'est des très belles paroles, quoi, c'est très bien écrit.
Tu peux me repréciser, parce que je ne suis pas sûre, j'en ai entendu parler, mais je ne savais pas exactement, elle a réenregistré ses chansons.
Ouais, en fait, elle était avec un producteur, qui, je crois que c'est le producteur de Justin Bieber,
okay.
Qui a racheté les droits de ses masters sans lui proposer à elle de les racheter avant.
Oh.
Et du coup, ses albums qu'elle a écrits elle-même ne lui appartenaient plus. Et quand il n'a pas voulu les revendre, elle a dit bah, « je les réenregistre tous ». Là, elle est en train de les sortir un à un. Et comme ça, ils lui appartiennent, vu que c'est les textes qu'elle a quand même écrits, elle, quand elle avait 18 ans.
Wow,
et comme ça, tout sera à elle. Quoi. Ce qui est quand même fou qu'on puisse acheter les chansons des gens.
Ouais.
Et du coup, ça avait lancé aussi, elle avait aussi lutté pour la rémunération des chanteurs, par exemple, sur Apple Music.
Mmh.
Elle avait tout retiré de ses titres de Spotify, Apple Music, avant que les gens soient vraiment rémunérés.
Wow.
Parce qu'elle est multimillionnaire, donc elle s'en fout, mais c'était pour les artistes qui, eux, dépendent de ça, quoi.
Ah, génial. Ah, elle est vraiment très engagée. Vraiment,
ouais, elle est hyper... et puis, sa musique est vachement... Moi, j'adore.
Ouais.
Donc, c'est vraiment pas mal.
Taylor Swift, icône. Est-ce que t'as des prénoms préférés? Tu sais comment t'aimerais appeler tes enfants?
Je sais pas trop. J'aime bien les prénoms. J'aime bien Sophie, mais le problème de Sophie, c'est que ça fait un peu les malheurs
de Sophie.
Et donc, c'est un peu compliqué. Mais donc, j'aime bien ça. Après, ce matin, tout à l'heure avec mes potes, je me suis dit que j'appellerais bien mon chat Simba, mais ça n'a rien à voir.
Oh,
mais Simba,
ouais, c'est vrai que chat, c'est trop mignon. Ouais.
Pour les enfants, je sais pas, parce que c'est toujours dur, il y a toujours des gens qu'on n'aime pas, qui avaient un joli prénom, et forcément, bah,
oui,
c'est
ça
plus
gâche.
Un joli prénom, quoi. Donc ouais, peut-être Sophie ou Alix. Alix, c'est joli aussi.
Quelle est la plus grosse bêtise que t'aies faite enfant?
Je pense qu'un jour, je me suis épilé les sourcils. Mais vraiment, catastrophe. Et ma mère, elle est rentrée, elle m'a dit « Tu t'es épilé les sourcils ?» Et j'ai dit « Non. » Alors que ça se voit quand même des sourcils. Donc, je pense que j'ai dû faire ça.
Entièrement ?
Pas entièrement, mais de manière très moche, un peu en plein milieu, je pense.
Oh.
Sinon, je faisais pas beaucoup de bêtises, j'étais assez sage. Parce que mon frère était un peu chiant, et du coup, moi, à côté, j'étais assez sage. Mais en bêtises, j'ai peut-être volé des sous à ma mère une fois, quand j'étais petite. Mais j'ai dû lui rendre, mais parce que je me sentais un peu mal. Mais quand même, c'est pas hyper sympa, quoi.
Et c'est quoi la pire crise que t'es faite ado?
Ah, moi, alors, j'étais assez chiante assez longtemps. J'étais un peu plus petite. Mais donc, je pense que j'étais assez méchante avec ma maman.
Oh.
Parce que j'étais un peu triste, je pense. Que séparation, tout ça... Elle aime bien dire que j'ai commencé ma crise ado quand j'avais 8 ans. Je pense que c'est un peu exagéré. Et donc, j'étais pas forcément hyper sympa. Parce que j'aimais pas forcément son nouveau mec, en plus. Qui était un peu... Qui me parlait un peu comme si j'étais une adulte alors que j'avais 15 ans.
Ouais.
Donc, un peu décalage de rapport, tout ça. Donc à ce moment-là, c'était un peu compliqué. Donc je pense que c'était un peu ça, toujours répondre, quoi. J'étais un peu toujours dans la répartie un peu agressive. J'étais un peu agressive, je pense.
Ouais, t'as pas du tout l'air agressive comme ça.
Mais c'est dur en même temps, à 15 ans, quand t'habites avec des gens que tu connais pas et tout.
Bien sûr, bah, c'est facile, une intrusion, bien sûr, de l'intime. Ah ouais, non, c'est...
Ouais, parce que, en gros, on devait habiter avec ma mère, mon frère et son mec. Et genre, la semaine avant l'emménagement, son ex-femme a dit « Ah, mais non, finalement, on fait garde alternée, donc on s'est retrouvés à 6 dans l'appart ». Parce que du coup, il y avait ses deux enfants à lui, donc mon frère et son fils dans une chambre, et moi et sa fille dans une chambre.
Et tu t'entendais bien avec elle?
Je m'entendais hyper bien avec elle, mais pas forcément avec son fils ni avec lui. Donc heureusement, pour une chambre partagée, c'était cool.
Ouais.
Mais on a quand même partagé notre chambre presque tout le lycée, je pense. C'est quand même beaucoup, quoi.
Ouais.
Et donc, c'est pas facile au début.
Et finalement, ta mère, elle est plus avec cet homme-là?
Non, parce que lui, pour le coup, c'est un peu un con.
Ah ouais?
Il s'est un peu foutu d'elle. Et elle, c'était un peu typique... Ah, je sais qu'il est pas sympa, mais on se voit plus. Ah, je l'ai bloqué. Ah, je reviens. Et ça me faisait rire de voir ma mère comme ça. Ma mère, je l'ai bloqué, mais je l'ai débloqué. Mais ça n'existe pas, ce genre de conversation à ton âge, quand même.
Ah ouais.
Puis en plus, ma mère, elle est trop belle et tout. Et donc, j'étais là, bah, quand même. Oust, passons à autre chose.
Ouais.
Et d'un côté, je comprenais. Et ma meilleure pote, elle me disait, vous êtes pareil, en fait. Toutes les deux, vous y arrivez pas, vous êtes pareil. Et j'étais là, mais tu as raison. Et un jour, je lui ai dit, bon, ça suffit. Bon, c'est pas moi qu'elle a écouté, bon, maintenant elle le voit plus, mais bon, c'est quand même énervant de voir. Je sais pas, ma mère, j'étais là, t'es quand même un peu stylée. Lui, non, mais lui, il était grand, il était beau, et, je t'achète des bijoux. Donc, voilà.
Ouais, c'est vrai que c'est dur. surtout de, à l'adolescent, de voir son parent remplacé par quelqu'un où on se dit mais pourquoi c'est moins bien, pourquoi vous n'êtes pas resté avec la version d'avant qui était mieux, quoi.
Ouais, après, moi, j'ai toujours pas trop compris comment mes parents avaient été ensemble, donc ça, ça va.
Ah ouais ?
Ouais.
Tu trouves qu'ils sont très différents ?
Ouais, ils sont hyper différents. Après, ils sont potes, mais ils sont tellement différents que je comprends qu'ils ne soient pas restés. Bah, ils ont dû rester une bonne dizaine, quinzaine d'années ensemble, c'est quand même pas mal.
Mmh.
À l'échelle de lui, c'est beaucoup, ouais. Mais ils ont beaucoup d'écart et ils sont très différents, quoi. Donc moi, ça me fait toujours rire. Parfois, je les regarde, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous nous avez fait là ?
Ouais.
C'est assez marrant. Parce que mon père, c'était le prof de ma mère à la fac.
Non.
Si. Et du coup, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés.
Ah ouais, dingue.
Et donc, ils sont restés ensemble quand même. Ils ont eu deux enfants et tout. Mais donc, c'est vrai que moi, quand je sais qu'ils se sont séparés, ça m'étonne pas. Je les vois pas trop finir leur vie ensemble, quoi.
Ouais. Oui, donc une différence d'âge, 20 ans d'écart.
Ouais.
20 ans d'écart.
En 18 pour le détail, mais bon.
Oui.
Ça fait quand même 20 ans.
Donc c'était un jeune prof. Non, c'est ton. Non, ta mère. Oui, non, ta mère avait 18 ans.
Non, non, ma mère avait 24, 35.
D'accord.
24, je pense, parce que ouais. Tu sais, fin de master.
Ok.
Et lui, il devait avoir 30. Ah oui. 38.
Ouais, ouais,
comme
ouais.
Ça.
Oui, voilà, quand même, ouais.
Un truc comme ça. Et du coup, mon père m'a eu. J'étais sa première fille, enfin, premier enfant, à 46 ans, ce qui est quand même vieux pour un premier enfant.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc, ça fait tout un décalage et tout. C'est pour ça que moi, ça m'étonne pas trop que mes parents soient pas ensemble. Je trouve que en pote déjà, c'est,
ouais,
ça va.
C'est cool.
Ça, c'est quand même un aspect qui est plus agréable, je pense, que de se dire, si vous avez personne chacun, mettez-vous ensemble et on n'en reparle plus, c'est fini, quoi.
Bah ouais, et ton père, lui, il n'a pas retrouvé de meuf après ?
Non, il a des meufs de temps en temps, mais je crois qu'il a un peu la flemme.
Ah ouais ?
Ouais, il est bien, tranquille, il habite avec mon frère et tout, et puis il voit ses potes, et puis comme ça, s'il avait envie d'être tout seul, il est tout seul et ça lui va très bien.
Ah, il est solitaire ?
Ouais, c'est assez rigolo.
Rappelle-moi, il enseigne ?
Il enseignait l'anglais. Et du coup, moi, toute ma scolarité... En fait, moi, je suis très forte en langue et j'adore ça. Et j'ai appris l'anglais un peu toute seule par la musique, les livres, les séries, tout ça. Et en parallèle, j'avais mon père qui était prof d'anglais. Et donc, moi, toute ma vie, j'ai entendu... Mais c'est normal que tu sois forte en anglais, Margot. Ton père, il est prof. Et donc, c'était un peu le running gag. Alors que donc, maintenant, c'est devenu une blague parce que tout le monde sait que ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on a des intérêts communs, du coup, vu que lui, il a fait un... doctorant en littérature américaine, vu que moi j'aime livres, quand je rentre, il me file des livres, on parle de livres et c'est chouette. Mais bon, au-delà de ça, il m'a jamais vraiment appris l'anglais, donc c'est vrai que c'est assez marrant quand j'ai des potes qui me disent ça encore en mode mais on sait de toute manière. et moi, du coup, au lieu de prof de français, ce qu'on me disait tout le temps, c'était tu vas être prof d'anglais, comme ça sera pratique. Et moi, j'étais, mais non, je veux pas faire ça juste parce que mon père fait ça.
Et tes grands-parents, du côté de ton père, ils devaient être trop contents que ton père il ait des enfants parce qu'à 46 ans, ils devaient se dire, ça se trouve, il en aura jamais.
Ouais, peut-être. Mais mon grand-père, je ne l'ai pas connu. Enfin, il est mort quand j'étais très jeune. Et ma grand-mère, mon père, c'était son fils chéri.
D'accord.
Et donc, je ne suis pas sûre qu'elle avait beaucoup d'inquiétude pour lui.
Ah oui, elle était heureuse quoi qu'il.
Ouais. Ouais. Même jusqu'à très tard, il allait manger avec elle une fois par semaine, le midi.
D'accord.
Après, quand elle était en maison de retraite, on allait la voir tous les jours. Donc, c'était assez...
Fusionnelle.
Je ne sais pas trop si elle se posait cette question. En tout cas, moi, il m'en a jamais parlé. Puis comme elle avait trois enfants, qu'il y avait des enfants, elle n'était pas en manque de petits-enfants, au moins.
Et tu t'entends bien avec tes grands-parents du côté de ta mère ?
Ouais, eux aussi, ils sont divorcés.
Okay.
Tout le monde se sépare dans la famille.
Ah ouais ?
Et eux, ils sont parisiens, du coup, parce que tout le côté de ma mère, c'est Paris, tout ça.
D'accord.
Et donc là, ils habitent tous les deux en région parisienne, vers Puteaux, Neuilly.
Mm-hmm.
Et je ne les vois pas très souvent, alors que je pourrais. Mais c'est chouette. L'autre jour, j'ai déjeuné avec mon grand-père qui me parle d'histoire, de tous les trucs qu'il connaît. Mmh. On se balade dans Paris. Il me dit, alors, telle rue, il y avait Voltaire qui habitait là.
Mmh.
Là, il y avait Marie-Antoinette. Ah, d'accord.
Ouais.
Donc, c'est assez marrant.
Ouais, ça, c'est super.
Ouais, parce qu'il a une mémoire. Moi, je suis là, mais je ne sais pas d'où tu sors toutes ces informations. Donc, c'est assez marrant. On va au resto. Derrière nous, il y a Lionel Jospin. Il me dit, ah oui, à son élection, il a perdu à 30%. C'était il y a 20 ans, quoi.
Ouais, il a une super mémoire.
Ouais, c'est ouf.
Ah, c'est impressionnant.
C'est rigolo, c'est une autre génération, quoi.
Ouais, mais c'est vrai que ça, c'est un plaisir à Paris. En effet, c'est quand même l'histoire.
Oui.
C'est quand même l'histoire et les rues et les plaques et de savoir que Racine a vécu là,
oui.
Que justement, ma maison d'édition, Les Arènes, c'est l'ancienne imprimerie de Balzac.
Ouais, c'est cool, ça.
Tu vois, en fait, ça rend réel des grands personnages ayant vécu et... Tu te dis, mais oui, non, c'est pas...
Ouais, c'est fou.
Ils étaient là, ils vivaient là, ils étaient dans ces rues.
Bah ouais, moi, là, samedi, je me baladais dans le 5e et j'ai vu toute une rue où t'as plein dans... Je crois qu'il y avait la maison de Voltaire.
Mmh.
À côté, il y a un endroit où a vécu Hemingway. Et tu dis, c'est fou, quoi.
Mmh. Ouais, c'est chargé. Oui, et puis c'est beau quand même. Parfois, il y a des beaux... la dernière fois, justement, c'était avant... Ah non, j'étais à Gare d'Austerlitz et j'allais à Chessy, à la première partie de Vérino. Et donc j'attendais, j'étais un peu en avance, je suis allée me promener au Jardin des Plantes, je sais pas si tu y as été.
J'y étais samedi.
Ben, c'est trop beau
c'est
quand même.
C'est trop beau, j'adore les jardins.
C'est très joli. Hein.
Puis il y a plein de musées qui ont l'air fous, moi, à côté de chez moi, au bois de Vincennes, il y a l'aquarium qui a l'air mais magnifique, quoi. Et
ah ouais.
Il y a un zoo, enfin il y a plein de trucs et je me dis...
Ah oui, le zoo de Vincennes, ouais.
Il est immense,
ouais,
j'entends les animaux
immense.
Parfois.
Ouais.
Et donc c'est fou. Puis même, moi j'adore les jardins, les parcs, les bois, tout ça. Et il y en a tellement que c'est cool de découvrir des nouveaux...
Même le château de Vincennes, il est beau quand même.
Ah ouais?
Il est fat.
Ah, j'y suis jamais allée.
Mais il y a aussi un truc que j'adore, c'est quand je prends le train un peu en tournée, là, c'est de regarder par la fenêtre les paysages. Et souvent, je trouve ça quand même très joli, la campagne française. T'as les champs, les petits villages qui défilent. Et puis, tu vois, il y a pas mal de petits châteaux, quoi.
Mm.
De petits manoirs, de petits châteaux. Il y en a plein, quoi. Peut-être qu'il faudrait que, pour les législatives, en plus du revenu universel...
Chacun son château.
Tout le monde ait un petit château. Ça serait pas trop demandé, quand même.
Ouais, franchement, ce serait pas mal. Hein. 66 millions de châteaux, c'est bon.
66 millions de petits châteaux. Je continue. Alors, la qualité que tu préfères chez un homme ?
L'honnêteté, je pense. Je pense que c'est quand même important.
Et la qualité que tu préfères chez une femme ?
L'honnêteté, peut-être la gentillesse, les deux.
Mmh.
L'honnêteté et la gentillesse.
Le principal trait de ton caractère ?
Je pense que c'est bavarde.
Ah ouais,
mais après,
c'est vrai,
c'est pas vraiment un trait de caractère. Du coup, peut-être gentille.
Oh.
Mais ouais, bavarde. Je parle beaucoup. Là, je fais des efforts parce que je suis un peu timide, mais...
Ah non, lâche-toi. D'habitude, dans quelles circonstances tu parles beaucoup ?
Je parle beaucoup quand je suis avec ma mère, parce que ma mère parle... En fait, je suis bavarde et on parle très vite.
Ah.
Et donc, compliqué. Donc souvent, mon père arrête de m'écouter de parler parce qu'il ne me comprend pas. Et donc, avec mon copain, je parle beaucoup. Et parfois, il me regarde, il me dit, mais c'est pas intéressant ce que tu racontes. Je suis là, oui, je sais, mais je parle. Il me dit, d'accord, mais tu sais que c'est pas intéressant ce que tu dis. Je dis, oui, oui. Mais je raconte tout ce qui se passe dans ma vie, machin. Et là, tu sais que... Donc c'est terrible.
Bah c'est cool.
Parfois c'est vraiment pas intéressant.
Ah bon ?
Parfois je dis des trucs ou alors, non mais par exemple, truc d'enfant de 8 ans, je me balade dans la rue et je dis tout ce que je vois. Oh t'as vu là, il y a ça. Oh t'as vu là, il y a ça. Bah oui je sais, on voit tous les deux la même chose. Mmh. Et on me prend un peu pour une folle. Mais bon, au moins je traîne avec beaucoup de gens en fait, avec mon copain, on se complète parce que lui, il est très calme.
Okay.
Il aime bien m'écouter, c'est juste qu'il n'a pas forcément toujours un truc à me répondre. Et, et ça, je pense que parfois, ça le berce tellement.
Ah ouais, ça l'hypnotise.
Donc, c'est un peu grave. Et donc, parfois, quand je rencontre des gens que je ne connais pas, là, par exemple, j'essaie de ne pas avoir l'air un peu folle.
Bah, t'as pas du tout l'air folle, du tout. Bah, tu vois, moi, je crois que je suis bavarde dans mon podcast quand je rencontre des gens ou quand je reçois des invités. Mais par contre, dans la vie, je pense, j'ai bien peur d'être un peu comme ton copain. Parfois, je suis en mode mutique.
Oui.
C'est-à-dire, je parle plus. Je parle plus du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et parfois, c'est même un peu... J'ai plus envie de parler, quoi.
Moi, ça, c'est quand je suis avec des gens avec qui je suis pas hyper à l'aise, par exemple. Là, pour le coup, je parle pas trop.
Mm.
Si c'est des... Par exemple, des potes de potes, où je suis un peu en train de...
Mm.
Moi, j'ai des copains, ils arrivent, ils s'insèrent dans la conversation. Mm. Aucun problème, hyper extraverti. Je suis là, waouh.
Mm.
C'est impressionnant, quoi.
Ouais.
D'être à l'aise avec plein de gens comme ça.
Moi, je suis souvent dans le conflit avec les gens que je connais pas, comme ça, dans les phénomènes de groupe, de machin. Je suis un peu... Surtout si un mec me dit un truc et je fais non, c'est faux. Ou genre, je supporte pas quelqu'un que je connais pas me contredise parce que c'est un gars. De moins en moins, je suis en mode non.
Ouais, enfin, c'est un peu énervant. Je comprends. Moi, il y a une période où j'étais très cassante.
Ah ouais?
Et parce que les gens, c'était un peu insupportable de toujours ramener à soi ou quand il n'y avait pas de rapport. Et donc, c'était un peu... Bah non. Et ça m'était un peu en froid. Tant parfois, c'est assez désagréable qu'on se fasse couper la parole juste parce que la personne prend de la place. Mais bah, c'est pas obligé. Tu peux laisser les gens parler, quoi.
Ouais. Mais c'est très compliqué de trouver... Je te souhaite bon courage là-dedans. C'est de trouver le rapport d'autorité tout en étant aimable. Tu vois ça, la communication, je trouve que c'est vraiment l'un des trucs hyper difficiles.
Bah, moi, c'était mon problème quand j'étais crise d'ado, tout ça.
Okay.
Bah, avec mon beau-père, du coup, il fallait être respectueuse parce que c'était un adulte, mais lui, il me parlait mal et j'étais un peu dans « Pourquoi est-ce que moi, je devrais être hyper sympa ?»« Oui, mais moi, j'ai bac plus 5. » Oui, mais bon, tu peux quand même être sympathique, tu vois. Et donc ça, c'était un peu un point qui me dérangeait, quoi. Il pouvait être... si lui, il était cassant, c'était pas grave. Mais si moi, j'étais cassante, c'était hyper irrespectueux. Et ça, c'était un aspect où ça m'énervait beaucoup. Et ma mère, on avait parlé avec lui en mode... Bah,
respecte-la.
Oui, c'est pas parce qu'elle est chiante qu'on peut mal lui parler. C'est quand même deux choses très différentes. Et moi, j'en ai beaucoup reparlé avec ma mère, parce que lui, je m'en fous, parce que il est plus dans ma vie. Mais ma mère, quand même, on en a reparlé. Elle m'a dit, moi, ça m'a toujours énervée qu'ils ne comprennent pas qu'à 45 ans et à 15 ans,
ouais,
on n'a pas la même vision d'une conversation, d'un conflit. Quand t'as 45 ans, t'es censé avoir la maturité,
bah ouais,
de comprendre quand il y a un problème, quoi.
Mais elle te défendait sur le moment?
Elle me défendait sur le moment, mais il y avait aussi l'aspect des garçons qui étaient chiants avec moi, et donc c'était un peu dans la lignée du truc, et que lui, au bout d'un moment, ça clashait avec elle, parce que bah, pas la même éducation des enfants, pas la même approche, elle n'aimait pas qu'il nous parle mal, que ce soit à mon frère ou à moi, parce que bah, c'est logique. Mais lui, c'était un peu plus une éducation, pas autoritaire, mais plus carrée, quoi.
Mmh.
C'est mes enfants, c'est pas mes potes.
Quelle horreur!
Mais parfois, on a quand même eu cette conversation, on était tous les quatre enfants. Enfin, enfants, on avait tous entre 15 et 18 ans, quoi.
Mm.
Ah, mais moi, j'ai bac plus 5, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi.
Ah, oh, mais il était très narcissique.
Ouais, très narcissique. Mais c'est quand même bizarre comme argument,
c'est très,
quoi,
bizarre, mais ça,
ah, non,
ça
j'ai
prouve...
raison, j'ai bac plus 5, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche.
Mais ça veut dire qu'il avait un manque de confiance,
ouais,
en lui,
je
terrible.
Pense. Ouais, je pense.
Et alors, et qu'est-ce que ça l'avait mené où, ce bac plus 5?
Promoteur immobilier, je crois.
Oui, bon, tu vois, promoteur immobilier.
Ça donne des sous, mais bon, c'est, oui, pas non plus la sagesse infime, quoi.
Ouais, mais il voulait être roi en sa maison, quoi.
Ouais, c'était moi le chef.
Le patriarcat bien, ouais, incarné, quoi.
Ouais, surtout que moi, à côté, mon père était strict.
Plus cool.
Pas vraiment strict, mais bon, ouais, il parlait pas mal, quoi. Ouais. Si on s'engueulait, chacun s'engueulait de son côté, et puis voilà, c'était fini. Il n'y avait pas de « je suis au-dessus de toi ».
D'autoritarisme, de rapport de domination.
Ouais, le strict avec mon père, c'était « non, tu sors pas, tu vas te faire agresser dans la rue ». Bon, d'accord, il y a,
ouais,
pire, quoi.
Oui, c'est un conseil.
Oui.
Lui, c'était quoi, comme, tu te souviens de dispute? C'est quoi la plus grosse dispute que t'aies eue?
Avec mon père?
Ton beau-père.
Ah, c'était tellement.
Ah ouais?
Mais je pense que moi, j'aimais pas. Je répondais, et ça l'énervait, et je faisais des remarques qui l'énervaient. Après, je pense que parfois, je cherchais un peu.
Ouais, mais bon, t'avais 15 ans, quoi.
C'est ça.
Ouais.
J'ai pas trop d'exemples, mais c'est vrai que c'était un peu. C'était tout le temps, quoi.
Bon, il a jamais été violent,
non,
physiquement?
Non, non. Avec ses enfants, je pense qu'il leur mettait des... Je crois qu'une fois, il leur a mis une fessée alors qu'il avait genre 16 ans, son fils.
Ah oui, c'est un peu tard pour une fessée. C'est hyper humiliant.
Le pauvre. Après, lui aussi, t'es un peu... Enfin, il était un peu spécial, mais il était gentil, quoi. En même temps, quand ton père est chelou, tu deviens un peu agressif. Enfin, agressif, c'est un grand mot. Un peu énervé, quoi.
Ouais.
Non, c'est marrant.
Ouais, puis les dynamiques de garçons, d'ados, ouais, parfois, ah ouais, ils peuvent... Moi, parfois, quand les mecs, comme ça, deviennent un peu cassants, un peu vanneurs, un peu... Ça me... J'ai jamais trop réussi,
ouais,
à gérer ce genre de dynamique. Alors... est-ce que j'ai eu des adultes qui... Non, mais je pense plus à des mecs de mon âge où d'un coup, en fait, ça charrie. J'aime pas ce truc de qui aime bien, ouais, châtie bien. Et donc, résultat, on t'envoie de la vanne et t'es censé répondre. Parce que moi, je réponds, mais ça part...
Ça part pas en vanne, quoi.
Ça part pas trop en vanne. C'est, je commence à répondre. Je pense que je suis pas très forte là-dedans, dans cette espèce de répartie semi-méchante. C'est-à-dire où c'est vraiment pas méchant et c'est un peu bisounours raté, où ça devient super violent et, ouais, d'un coup ça met une ambiance très très tendue, et en fait au moment où ça pourrait partir en engueulade sérieuse alors que c'est que de la vanne, moi j'ai envie de pleurer, enfin,
ouais,
ça
non,
prend...
c'est temps,
ouais, non, c'est, ouais, vrai que les mecs qui charrient comme ça, et puis même ce truc de qui aime bien châtie bien,
ouais, c'est bizarre, ouais. Moi je sais que j'ai des potes avec qui on se charrie, mais c'est juste,
oui,
potes, quoi, normal,
ouais.
Et les gens qui ont des relations un peu on se charrie, mais c'est un peu méchant, c'est quand même super bizarre.
Ouais.
C'était vraiment envie d'être méchant avec quelqu'un, il faut pas être pote avec lui, et puis voilà, quoi, très bizarre.
Ouais, c'est vraiment un truc bizarre, mais c'est marrant parce que c'était aussi un peu, enfin, on a 10 ans d'écart, mais même un peu plus, mais en tout cas, moi c'est vrai que c'était vraiment ce truc quand j'ai grandi, c'était de, ouais, qui aime bien châtie bien, c'était cette expression que tu utilisais un peu dans la cour d'école, quoi,
ouais,
en fait, parce que c'était ça les rapports de séduction entre mec et meuf. C'était qui aime bien châtie bien, c'était cette phrase, elle était là, parce que si t'aimes bien, comme si on peut pas s'empêcher de s'aimer en se détestant.
Ouais, ouais. Mais moi je trouve que c'était surtout au collège où les garçons,
ouais,
étaient méchants.
Oui.
Mais j'en ai reparlé avec mes potes, parce que j'ai un grand groupe d'amis avec qui on se connaît tous depuis qu'on est en 6e, et pour beaucoup on est encore très amis. Et on en a reparlé avec eux, on leur a dit « vous étiez horribles avec nous au collège ». Et ils ont tous dit « ouais, c'est vrai ». Ils se sont excusés, ils ont dit « bah, en fait, on s'en rendait pas compte, on était même méchants entre nous et tout ». Et c'est fou de se dire qu'ils le faisaient juste parce que c'était un peu la mode, quoi. Et qu'ils s'en rendaient pas compte sur le moment. Et j'ai trouvé ça hyper agréable qu'eux disent « bah, ouais, on n'était pas méchants, on faisait pas exprès, on était cons, quoi ». C'est quand même assez rare.
Ouais, c'est génial qu'ils l'aient reconnu.
Que les gens le reconnaissent et tout. Et surtout qu'ils nous ont dit... surtout, c'était des insultes débiles, type « Ah, vous êtes moche, machin ». Ils disaient « En plus, vous étiez toutes tellement plus belles que nous, alors qu'on était juste là, il fallait bien qu'on vous parle et tout ». Puis c'était l'époque un peu bizarre, on était tous potes, filles, garçons. Mais par exemple, parfois, les garçons, ils se faisaient pas la bise aux filles, parce que les filles, on fait pas trop la bise, parce que après, c'est comme si on s'embrassait. Enfin, c'était tout un truc un peu bizarre au collège. Alors qu'après au lycée, ça se trouve que ça a vachement disparu dans mes relations avec mes potes. C'était beaucoup plus
oui, ça
tout le monde est pote avec tout le monde, que ce soit fille ou garçon, on s'en fout quoi. Alors qu'au collège, c'était très fille d'un côté, garçon d'un côté, on dispute.
Ouais, moi je me faisais pas mal traiter de faillotte. Hein.
Ah ouais.
Mais après je l'étais.
C'est vraiment bizarre comme insulte, je trouve, faillotte.
Faillotte. Oh, je l'étais vraiment en même temps. Franchement, je peux pas leur en vouloir de ça parce que j'étais vraiment la nana qui me met au premier rang, qui lève la main très, très haut et qui est vraiment. Mais bon, après, j'étais quand même déléguée. J'avais quand même envie d'être prof des gens, mais parfois, vraiment, ils me le reprochaient. Et parfois, ils me le reprochaient très méchamment. Faillotte, un télo. Et c'était un peu dommage parce que je voyais ça comme... j'avais envie d'avoir une relation avec les adultes, quoi. J'avais envie de discuter avec les profs. Mais c'est vrai que tout le monde... En fait, je pense que les gens étaient un peu déstabilisés parce qu'il y avait un rôle. Tout le monde essayait quand même un peu d'être cool.
Ouais.
Et j'en avais vraiment rien à battre. Si j'avais un prof que j'aimais bien ou une prof, j'avais envie d'établir un lien privilégié.
Moi, ça, je comprends. J'aimais bien les adultes quand j'étais petite.
Ouais.
Les parents de mes copains, ils m'aimaient bien. J'étais trop polie. Donc, c'était chouette, quoi. Moi, j'étais... Bonjour. Mais c'est vrai que les profs qu'on aime bien, moi j'ai une prof de prépa, de ma prof d'anglais de prépa en première année, vraiment j'étais fan d'elle, je l'aimais tellement. Je lui avais envoyé un mail à la fin de l'année pour la remercier et tout. Et maintenant on a continué à s'échanger des mails et depuis là au début d'année j'ai été colleuse dans ma prépa. Du coup j'ai fait passer des colles aux gens qui sont en prépa maintenant parce qu'elle m'aimait bien aussi. Comme quoi, ça marche parfois d'être faillotte, c'est trop bien.
Mais t'as raison, c'est l'une des plus belles relations qu'on puisse avoir dans la vie. C'est la relation avec un prof. Enfin, en fait, j'y crois vraiment. Je pense que c'est les gens dont le métier est de transmettre, quoi, de nous apprendre des choses et de nous faire découvrir. Donc, c'est normal qu'on ait une espèce de reconnaissance infinie envers. Et en plus, après, on n'en a plus. Alors, après, il y a des mentors, il y a des gens qui ensuite te font découvrir ou t'amènent vers certains endroits. Tu verras, toi, tes collègues, c'est comme tes camarades qui te font découvrir des livres dans la maison d'édition ou moi, ensuite, des gens avec qui j'ai pu travailler qui m'ont appris, mais je trouve que c'est je trouve ça trop beau, quoi. En fait, je trouve que c'est peut-être c'est peut-être plus systémique, dans le sens où je pense que si je me fais traiter de faillotte, c'est que la société est malade, tu vois, presque. Même c'est qu'en fait c'est eux qui passent à côté de la joie ultime de pouvoir aimer et montrer l'amour qu'ils ont à quelqu'un qui est là pour leur faire découvrir des choses tellement incroyables, quoi.
C'est clair. Moi, ça a souvent été mes profs d'anglais, quand même, que j'aimais beaucoup.
C'est vrai ?
Ouais. Bah, vraiment, ma prof d'anglais en prépa, c'était trop chouette, quoi. On faisait des cours de traduction, et moi, j'aimais trop. Et du coup, c'était vraiment un aspect que j'adorais, quoi. C'était le seul aspect en prépa, vraiment, j'adorais. C'était le seul moment où j'avais des bonnes notes, en plus. Donc, c'était trop pratique.
Attends, moi, il y avait une prof d'anglais au collège que j'adorais aussi. Mais pourquoi je l'aimais ? Elle était très belle, je dois avouer. Elle était hyper grande, hyper distinguée. Et puis, elle nous demandait vachement, elle notait la présentation.
Okay.
Et moi, vu que j'étais obsédée de calligraphie, j'avais tout un code couleur. Et elle avait fait circuler mes cahiers dans ma classe, quoi.
Dans
toute la classe. Ah ouais, j'étais très, 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 très heureuse et fière de ça, que mes efforts aient été vus, récompensés. Et ensuite, après, le soir, je le racontais à ma mère. Ah ouais, beaucoup, beaucoup de joie là-dedans. Bon, après, la vie, c'est quand même moins... C'est pas comme ça.
Ouais. C'est plus rare qu'on fasse des travaux comme ça.
Oui, puis tu peux pas, il n'y a pas tout le temps des gens pour te dire bravo. Enfin, je sais pas, tu peux pas, c'est autre chose, c'est ailleurs. Il faut aller trouver la reconnaissance ailleurs. Bah, tu la trouves dans le fait qu'il y ait des auditeurs qui écoutent ton podcast. On termine le questionnaire de Proust. Ce que tu détestes par-dessus tout ?
La méchanceté.
Comment aimerais-tu mourir ?
Sans m'en rendre compte, je pense. Type une chute, vraiment bam.
Chute, c'est vénère quand même.
Je sais pas. Mais dans mon sommeil, ça me paraît un peu trop. Peut-être de vieillesse, comme ça. Mm-hmm. Un peu, j'oublie que je suis en train de mourir. Comme ça, c'est fini.
Et enfin, ton état d'esprit actuel ?
Moi, je suis contente. Très chouette.
Merci Marco d'être venu.
Merci à toi.
Et voilà, c'était la douce Margot. J'espère que cet épisode vous a plu. Et que voilà, qui vous a apporté un petit peu de douceur, de compagnie, ou que vous l'ayez écouté. De mon côté, je vous laisse, je vais faire des courses, voilà, pour chez moi, et puis je vais essayer d'aller à la salle de sport, et je vais essayer de, voilà, de passer des appels, des mails, de réfléchir peut-être aussi à l'année prochaine, voilà, aux projets qui vont suivre à la rentrée. J'ai une idée de format que je verrai bien, mais peut-être que par superstition, je ne vous le révèle pas tout de suite. J'attends que ça se concrétise, que ça se fasse. Mais en tout cas, je vous remercie évidemment d'écouter le podcast. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.